Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir ou bonjour à toutes et tous. On refait le match, 35e de la saison. 35, on salue les auditeurs d'Ille-et-Vilaine et les supporters du Stade Rennais qui, à l'heure de la chicorée, votre ami du petit déjeuner, a joué à Angers aujourd'hui. Résultat, 3-0 pour le Stade Rennais sur la pelouse du SCO. Ce sera bien évidemment dans On refait le match. Tout comme Marseille-Lorient, match de 17h actuellement. Le score est de 2-2 entre Marseille et Lorient. 20h-23h RTL Foot. Il y aura du turnover après Silvestro, après ce sera sans fourche, mesdames, messieurs, en meneur de jeu. La saison est longue et on parle là de gestion d'effectifs. Avec moi ce soir, Dominique Sévérac, le Parisien aujourd'hui en France, partenaire du service des sports.
Bonsoir à tous.
À la une du Parisien ce matin, vacances d'été, c'est le moment d'y penser. Mais nous, on y pense tous les jours, Dominique.
Évidemment.
Bonsoir à vous. Florian Gazan, l'homme orchestre de RTL, le Rémi Bricat du PAF, présent dans On fait le match, chroniqueur le samedi matin, 8h, la grosse cote, l'encyclopédie des grosses têtes, 15h30, écrivain à 16h de moins en moins perdu, et puis un nouveau podcast à ce titre qui fiche en l'air quand même nos principes du bien parler. Hein. Le titre du podcast, Ah ouais.
Ah ouais.
Eh ouais.
Bonsoir à tous, bonsoir Christian.
À retrouver sur toutes les plateformes en tous les cas, Florian, bonsoir. Gilles Verdez, le procureur d'En fait le match, la critique toujours affûtée, le contre-pied parfois audacieux. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Baptiste Després, le Figaro, pour montrer qu'on sait également être sérieux, le Figaro tout de même dans En fait le match.
Pas trop quand même. Hein. Bonsoir Christian.
Bonsoir. Et en loge VIP, mesdames, messieurs, wow. Après Platini, après Aulas, après Le Graët, avant Mbappé, avant Neymar, avant Messi et Cristiano Ronaldo, monsieur Bernard Lyons, journaliste à l'équipe, auteur du livre que je montre, tiens, tout de suite aux caméras d'En fait le match, puisque l'émission est filmée sur RTL.fr ou via l'application Derrière la porte verte chez Solar Édition. Bonsoir, cher Bernard.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver.
Plaisir partagé, bienvenue à vous. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Avec Baptiste, évidemment, Durieux pour les messages reliés sur le compte @RTLFoot. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Et à la réalisation de cette émission filmée, je le disais il y a un instant, 100% interactive, l'ami Damien Béchiot à la réalisation.
Bonsoir Christian, bonsoir tout le monde.
Alors au menu ce soir, et c'est une des raisons de l'avenue de Bernard Lyons, qui a été longtemps une belle signature d'En fait le match, déjà à l'époque d'Eugène Saccomanno.
Oui, j'ai commencé en 2004 à l'Euro Portugal et j'ai terminé en 2019 lors de l'émission Hommage au regretté Eugène Saccomanno.
Question, Saint-Étienne est à vendre. Bonne ou mauvaise affaire? Et puis on parlera du bouquin, évidemment, dont je parlais il y a un instant. Et on tentera de répondre à cette question, bonne ou mauvaise affaire. À partir de 19h, on va changer un peu l'ordonnancement de cette émission, car dans un instant, nous allons rejoindre Hugo Hamelin au Vélodrome. Et oui, surprise, surprise, tout de même, 2-2 entre Marseille et Lyon. J'aurais bien voulu démarrer par l'AS Saint-Étienne. Et Lorient, j'aurais bien voulu démarrer par l'AS Saint-Étienne, mais on va commencer par Marseille-Lorient. Autre débat dans la soirée, le PSG. PSG qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, c'était cette semaine. Les Parisiens doivent-ils avoir peur de Manchester City? On verra cela également avec nos amis de Doxa et de Winamax. Et puis, alors voilà, ça c'est le débat qui embrase évidemment la planète du foot français. Les entraîneurs français sont-ils nuls? C'est ce que laisse entendre Pablo Longoria, le président marseillais. Mais je vous poserai la question. Sampaoli, lui, son entraîneur, se compare à Nietzsche. C'est-à-dire qu'il réfléchit en marchant. Mais qui était l'OM?
Qui était moins fort pour le football, Nietzsche.
Où va l'OM? Il avait un bon jeu de tête.
Ouais,
tout.
Ouais.
Ah oui, la tête. Où va l'OM? Et sur le terrain, où va l'OM? Hugo Hamelin, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous. Et ben, c'est très très chaud pour cette fin de match ici au Stade Vélodrome, 79e minute. De partout, vous l'avez dit, entre Lorient et Marseille, c'est le festival Terem Mofi cet après-midi, le jeune attaquant nigérian du FC Lorient qui a inscrit un doublé, ses 10e et 11e but de la saison, dont le second magnifique à la 70e, une frappe du gauche en pleine lucarne, c'était l'égalisation. Les buteurs côté marseillais, ça s'est joué en 3 minutes au retour des vestiaires. Payet sur une passe de Milik et Lirola pour son premier but en Ligue 1, le jeune latéral espagnol. Ça fait donc 2-2 entre Marseille et Lorient, et c'est les Lorientais qui poussent depuis quelques minutes désormais. Un bon coup franc là pour Dimitri Payet dans la surface de réparation, ça va être repoussé en corner. Oui, je vous disais, des merlus qui tentent de prendre leur chance malgré leur défense à 5 au coup de sifflet au coup d'envoi de ce match, mais voilà, Terem Moffi les a relancés avec cette égalisation à la 70e, et c'est très indécis cette fin de match entre Marseille et Lorient.
Angers-Rennes, c'était à la mi-journée, j'ai exagéré un peu, c'était évidemment pas matinal, mais c'est de plus en plus tôt tout de même.
Hein. Angers-Rennes.
Oui, victoire de Rennes à Angers 3-0, les buteurs Doku, Terrier et Guirassy, ce qui replace au classement prévisoire Rennes à la 6e place, mais à un point seulement du Racing Club de Lens, qui jouera de mémoire à Brest. C'est un match de 15h. Est-ce que c'est bien Brest ? Il va falloir que je le retrouve pas. Oui, c'est bien cela. Donc ce sera Brest et déplacement donc à Le Blé. En Ligue 2 également, la victoire du leader 3 sur Caen cet après-midi, 1-0, et Clermont-Le Havre, match nul un partout. Alors, on va commencer. Hein. On aurait bien voulu commencer. J'aurais souhaité commencer par l'AS Saint-Etienne, mais on va commencer par ce qui se passe quand même au Vélodrome, 2-2. Et il va falloir que Longoria songe à recruter Pélissier, Hugo Hamelin.
Pour l'instant, il y a égalité entre l'entraîneur argentin et l'entraîneur français. Et c'est quand même un changement tactique de Jorge Sampaoli en début de seconde période qui a amené un Olympique de Marseille complètement inoffensif lors du premier acte, et bien à se réveiller, à être beaucoup plus intéressant sur l'aspect offensif. Il a enlevé Sakai, qui était donc ce piston gauche et qui est forcément plus défensif qu'offensif, et il l'a remplacé par Luis Enrique, le Brésilien, et ça a tout changé dans l'animation offensive marseillaise.
Messieurs, les entraîneurs français sont-ils nuls? Petite interview délivrée par Longoria dans El País, presse espagnole, en début de semaine. Si je dois résumer en substance, Longoria, petite phrase: en France, on forme des joueurs très individualistes sans concept très concret de jeu. Déjà, j'ai du mal à comprendre. Deux, il n'y a pas de modèle de jeu. Il en met une couche. La formation est comparable à ce qui se fait dans le basket américain, plus individuel que collectif. Comme si dans le basket américain, ça ne fonctionnait pas. Troisième petite phrase, c'est l'un des pays, la France, qui exporte le moins d'entraîneurs. Ils ne vendent pas d'idées collectives. Donc, désengage en règle de la formation des entraîneurs. Est-ce que c'est justifié ou pas, Gilles Verdez?
C'est un imbécile ou un imposteur? Donc, on va partir du principe que ce monsieur Longoria n'est pas un imbécile. Pourquoi il a fait ça d'abord? C'est pour justifier auprès de son actionnaire qu'il a acheté ensuite des joueurs étrangers en disant « Voyez, je ne peux pas acheter français parce qu'ils ne savent pas jouer ». Mais là où ça me choque profondément, c'est que ce monsieur méprise la France et les entraîneurs français au nom de son inexpérience. C'est un intrigant, c'est un paltoquet, il n'a rien fait, il a été pistonné pour arriver là. Franchement, je vais vous dire, Longoria, il peut rester des années maintenant, mais pour moi, il n'est déjà plus président de l'OM.
Oui,
il n'est plus rien.
Il va falloir argumenter parce que,
tant que vous voulez,
c'était la réaction des entraîneurs, notamment en substance, en disant, mais qui est Longoria?
Bravo,
qui est
bravo Longoria à eux. Qui est Longoria?
Ça, c'est pas un argument.
C'est pas sûr qu'il faille rentrer sur le fond.
Dominique Sévrac.
Christian, pourquoi rentrer sur le fond? Est-ce qu'il faut rappeler que Didier Deschamps est champion du monde? Est-ce qu'il faut rappeler que Zinedine Zidane et triple champion d'Europe? Est-ce qu'il faut rappeler qu'Arsène Wenger, Gérard Houllier ont fait une superbe carrière en Angleterre? Est-ce qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas moins il y a des entraîneurs français en Angleterre, il n'y a pas plus d'autres nationalités? C'est un faux débat en fait. Est-ce que Kylian Mbappé est un joueur qui est formé pas collectivement? Est-ce que Karim Benzema a été formé pas collectivement? En fait, répondre sur le fond, ça serait donner du crédit à ce qu'il dit. Or, ce qu'il dit, bon, je ne sais pas pourquoi il le dit, soit il a un melon incroyable, soit il est arrogant, soit il essaie de justifier auprès de son actionnaire des choses. Je n'ai pas très bien compris, je n'ai pas envie de lui répondre parce que tout est faux ou tout n'est pas, beaucoup de choses ne sont pas vraies.
Dominique, si on rentre dans le fond, on peut constater que le problème des entraîneurs français, c'est qu'ils ont dépourvu de réseau. Quand tu vois ce que les Portugais...
Alors, il y a un petit problème avec le micro de Bernard, ou le casque est trop près, ou le casque est trop loin, mais l'ami Damien Béchiot va nous régler ce...
On ne voit pas que Bernard s'exprime.
Voilà, je crois que c'est mieux comme ça.
Ah, voilà.
Ouais, je disais, si on rentre dans le fond du problème, c'est qu'à l'inverse des Portugais, c'est que les entraîneurs français n'ont pas de réseau. Ce n'est pas une question de compétence, mais de réseau. On voit très bien comment ça s'articule. Les Portugais mettent un entraîneur en place, font venir des joueurs à eux, et généralement, c'est les mêmes managers ou agents des joueurs et des entraîneurs, et vice-versa. Quand un part, l'autre arrive. Ils ont tissé comme ça une toile sur tous les championnats européens majeurs, ce que les Français sont absolument incapables de faire. Quand tu veux exporter un Laurent Blanc, par exemple, qui a fait ses preuves au Paris Saint-Germain et à Bordeaux avant, il n'a pas les réseaux suffisants pour pénétrer dans les grands clubs.
Bernard a raison. C'est, autant sur le fond, effectivement, c'est discutable sur la formation des joueurs français, notamment. Honnêtement, ça peut même être parfois risible. Mais sur le côté des entraîneurs, aujourd'hui, quel entraîneur français s'exporte? Alors, effectivement, il y a le problème de réseau, il y a le problème de langue. Parce que est-ce que les entraîneurs aujourd'hui en France sont capables de parler l'anglais, le parler l'espagnol, l'italien. Je ne suis pas certain. Après, c'est ultra caricatural parce que quand on dit aujourd'hui, c'est ce qu'il dit dans l'entretien El País, qu'il n'y a pas d'idée collective. Aujourd'hui, c'est quoi les idées collectives de tous les coachs espagnols, de tous les coachs italiens, de tous les coachs allemands? Aujourd'hui, Tourelle, Dominique, tu suis le Paris Saint-Germain au quotidien. Quelle était l'idée finalement collective de Tourelle au PSG? À Chelsea, on voit un peu ce qu'il veut mettre en place. Donc mettre tout le monde comme ça dans le même panier, je trouve ça vraiment, vraiment trop facile.
Je crois qu'il y a deux entraîneurs espagnols hors d'Espagne.
Mais c'est ça.
Mais quand tu regardes justement sur les cinq grands championnats, t'as les chiffres, non?
Regardons le dernier carré de la Ligue des Champions. Club espagnol entraîné par Zidane, un Français. T'as City qui est entraîné par un Espagnol. T'as le PSG qui est entraîné par un Argentin. Et t'as Chelsea qui est entraîné par un Allemand. Donc, c'est-à-dire, de toute manière, voilà, tout se mélange, tout tourne. Et aujourd'hui, il n'y a pas plus de Français à l'étranger qu'il y a d'Anglais à l'étranger. Des Allemands qui entraînent dans d'autres clubs, à part Klopp et Tuchel, moi, j'en vois pas trop. Et les Italiens, ils restent en Italie. Donc, ça veut absolument rien dire.
Allegri, qui est un très bon entraîneur, aujourd'hui, il n'a pas de poste.
Mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, voilà. Et quant aux joueurs français, de dire qu'ils sont mal formés, moi je veux bien, mais enfin aujourd'hui le joueur français c'est ce qui s'exporte le plus en dehors des Brésiliens, mais en Europe c'est le joueur français. Donc
vous me surprenez, car je n'imaginais pas un tsunami anti Pablo Longoria.
Non, mais c'est pas anti. Après...
Parce que ça, c'est un argument ou des arguments que j'entends, mais c'est peut-être aussi l'écume de l'argumentaire. Après, si on rentre dans le détail, on va quand même vous dire que les entraîneurs étrangers, avec le jeu, les concepts de jeu qu'ils ont des palmarès quand même totalement différents. Équipe,
c'est un
club,
autre débat.
Ça fait partie du débat. Les entraîneurs français.
Quel club ils avaient? Gérard Houllier, quand il a entraîné Liverpool, il a eu des titres.
Alors, c'était le passé. Houllier, Wenger, on est d'accord. Uh-huh. Deschamps à Turin, est d'accord.
Rudy Garcia à la Roma, il a réussi.
Rudy Garcia à la Roma, Denwex tout de même à la Sociedad. Bon, voilà.
Mais ça dépend.
Et Zidane.
Ça dépend quel club. Entraîneurs étrangers ont un meilleur palmarès, mais si vous avez dirigé l'AC Milan, si vous avez dirigé la Juventus, si vous avez dirigé. Je sais pas, moi, Manchester United, forcément. Le Norvégien Solskjær, qui est pas que Norvégien, il a plus de chances d'avoir des titres que d'entraîner en Norvège.
Je voudrais demander à Hugo Hamelin, qui est au Vélodrome, le score d'abord est toujours de 2-2. Hugo, on est d'accord?
Tout à fait, on est entré dans les 3 dernières minutes de cette rencontre.
Comment ont été ressentis ces propos tenus par Longoria à Marseille?
Bon, on les a lus comme tout le monde. C'est plutôt les réactions qui ont été commentées à Marseille. La réaction de Domenech, qui a pas connu vraiment le succès du côté du FC Nantes. La réaction de Genesio, qui a eu sa seule expérience à l'étranger en Chine. Voilà, Laurent Blanc est au Qatar, Bruno Genesio est en Chine. Voilà les pays d'export des entraîneurs
français. À l'instant
français
présent,
aujourd'hui.
Mais tous ceux qu'on a cités précédemment.
Oui, si on remonte sur 25 ans, effectivement, si on remonte jusqu'à Gérard Houllier au début des années 2000 à Liverpool, effectivement, on trouve quelques entraîneurs français.
Est-ce que c'est pas un problème générationnel aussi, messieurs, que je vous pose, parce que finalement il a 34 ans, Longoria, sur le plan du foot, là, pour le coup, quand Comboiré dit qui est, bon, c'est un peu brut de décoffrage, mais en même temps, il n'a pas prouvé grand-chose non plus, l'ami Longoria. Il est passé de club en club avec des responsabilités de recrutement, il a une vision très FIFA 2000 et très, football manager.
C'est ça qui est dérangeant, c'est qu'on a l'impression que c'est cette nouvelle génération de dirigeants qui arrivent dans le football et qui veulent expliquer le football à ceux qui sont là depuis 30 ans. Moi, j'ai rien contre les idées neuves, j'ai rien contre la jeunesse, j'ai rien contre le renouvellement des idées, mais Jacques-Henri Hérault, Longoria, c'est toujours des gens qui arrivent avec des PowerPoint, des tableaux Excel, et qui croient qu'ils vont révolutionner le football. Alors eux, ils sont jeunes, ils sont modernes, mais on a connu des Alain Bompard à Saint-Etienne, on a connu d'autres présidents qui croyaient révolutionner les choses et qui ont fini soit avec des banqueroutes, soit qui sont partis de manière lamentable. Ça finit toujours mal. Quand Antonetti a dit « je sais comment ça va finir », il sait très bien que ça va mal finir.
18h43, on va tourner une première page de pub, on va poursuivre ce débat évidemment, et on va se demander si à un moment donné Christophe Pélissier pourrait pas devenir aussi l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Le score lui est toujours de 2-2, je sais, je provoque un petit peu. Publicité et retour au Vélodrome, retour dans ce studio pour On fait le match. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
18h46, on fait le match avec notre invité Bernard Lyons pour parler tout à l'heure derrière la porte verte, histoire secrète de l'AS Saint-Etienne 2000-2020, avec également autour de cette table Dominique Sévrac, Florian Gazan, Gilles Verdez et Baptiste Després. Le stade Vélodrome, Marseille reprend l'avantage, Hugo Hamelin.
Exactement, passe décisive de Dimitri Payet et c'est Paul Lirola qui avait déjà inscrit un but dans cette rencontre qui ajuste le gardien, l'orienté dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Marseille qui force la décision et qui va chercher empêché une victoire qui était quasiment inespérée avec cette toute dernière occasion, la frappe de Lirola dans le petit filet de Dreyer. Ça fait 3 buts à 2 pour l'Olympique de Marseille face à Lorient.
Temps additionnel encore à jouer, à peine 2 minutes.
Il doit rester 1 minute 30.
1 minute 30, antenne ouverte hein, évidemment Hugo Hamelin. Messieurs, Marseille qui reprend l'avantage.
Normal, entraîneur étranger, talent.
Bon, si on prenait des exemples d'entraîneurs étrangers, Paulo Sousa à Bordeaux, ça a été un flop.
Terrible.
On est d'accord.
Et Gustavo Poyet avant lui, c'était...
Gustavo Poyet, ça n'a pas été terrible non plus.
Michel, Oscar Garcia à Saint-Etienne.
Michel, n'en parlons pas.
C'est entraîneur du stade de Reims.
Silvinho, n'en parlons pas. Concecao à Nantes, ça n'a pas été extraordinaire non plus.
C'était
peut-être le mieux. Oscar Garcia, j'en ai parlé à Saint-Etienne, qui a Bernard Lyon, ça a été un flop total.
La grève culturelle n'a jamais prise.
Oui.
On va voir ce que ça va donner avec le stade de Reims, puisqu'il sera le prochain entraîneur de Reims. Mmh. Mais l'histoire n'a pas retenu, n'a retenu seulement qu'il est parti après le 5-0 historique dans le derby face à Lyon, mais il avait quand même laissé les Verts à la 6e place. Hein.
Mmh. Alors, les entraîneurs français sont-ils aussi nuls que cela? Quand on dresse la liste, quand on oppose les arguments à Longoria, on peut quand même atténuer son analyse. Oui. Je pense que lui avait une analyse postmoderne, c'est-à-dire, je veux dire, parler des entraîneurs qui sont actuellement dans le circuit, en Angleterre et notamment, et en Espagne un peu. Voilà, c'est ça.
Aucune culture du football. Bah c'est parce qu'il a fait l'analyse dans l'instantané.
Il dit que les entraîneurs français ne s'exportent pas.
Non, il ne dit pas que ça, Hugo. Il ne dit pas uniquement...
Il dit qu'ils n'ont pas de philosophie de jeu et qu'ils ne s'exportent pas.
Alors, en prenant les deux phrases, ils n'ont pas de philosophie de jeu.
C'est ça. L'idée collective, c'est la philosophie de jeu.
Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le côté généraliser les choses. Tous les entraîneurs français n'ont pas de philosophie de jeu. Non, c'est pas vrai. Didier Deschamps, on l'aime ou on l'aime pas, mais il a une philosophie. Laurent Blanc a une philosophie. Aujourd'hui, vous avez Julien Stéphan a une philosophie. Dalloglio à Brest. Alors, il a une équipe comme Brest, c'est compliqué. Mais quand tu vois Brest, il y a quelque chose, il y a une empreinte. Donc, non, dire ça, c'est faux.
Quand il y avait Blanc au PSG, il y avait une philosophie de jeu. Avec quand même du bon matériel. Ça dépend aussi de la qualité des joueurs que tu as.
Mais c'est surtout ça, parce que moi je veux bien Guardiola, Bielsa, tous ces grands entraîneurs, mais d'abord ils ont les joueurs qu'ils veulent, ils peuvent les garder, donc ils peuvent travailler avec eux, parce que quand on regarde l'équipe de City, finalement c'est une équipe avec des joueurs qui sont là depuis 2, 3, 4, 5 ans. En France, dès que vous mettez en place quelque chose, au bout d'un an vous perdez la moitié de l'équipe, donc c'est compliqué de mettre en place une idée de jeu, comme on dit.
Reynald de Nouex le dit d'ailleurs très bien dans l'équipe ce matin ou hier, je ne sais plus, pour ressortir il faut des joueurs capables de ressortir, comme les défenseurs de Barcelone, du Real, peut-être de Liverpool, du Bayern, j'en sais rien. En tout cas, des joueurs qualitativement hors normes.
Oui, et qui restent et qui ont le temps de travailler. Je regardais justement l'équipe de France, l'équipe de Nantes qui a été champion en 2001 avec Reynald de Nouex. Il y avait deux étrangers. Il y avait Moldovan et Fabry. Et sinon, c'était que des joueurs globalement français et formés à Nantes. Donc évidemment, avec une idée de jeu, avec une éducation et des automatismes. Mais il faut du temps pour faire ça. Et le temps, c'est de l'argent. Et en France, on ne l'a plus.
Nietzsche est heureux. Hugo Hamelin.
Exactement, il va arrêter de marcher, il va pouvoir enfin s'asseoir. Jorge Sampaoli, puisqu'il remporte ce match, l'Olympique de Marseille remporte ce match 3 buts à 2. Beaucoup de rebondissements, les Marseillais ont marqué leurs 3 buts au cours de cette seconde période. On rappelle que Mofi du côté des Lorientais a signé une partie assez magistrale avec un doublé pour l'attaquant nigérian de Lorient, mais Marseille s'est réveillé grâce à Payet tout d'abord et ensuite grâce à un doublé de Paul Lirola, ses deux premiers buts en Ligue 1 pour le jeune latéral espagnol.
J'analyse mieux en marchant, comme Nietzsche disait cette semaine, Sampaoli. Voilà.
Et Marseille est cinquième, enfin est sixième, juste derrière Lens au goal average.
Décryptage, réaction, classement, commentaire à partir de 20h dans RT Foot. Merci beaucoup Hugo Hamelin. Donc ça, cette philosophie de jeu, ça dépend.
Mais qu'il y en a une à part le Barça.
Elle s'adapte aux joueurs que tu as à la qualité des joueurs que tu as. Mais l'autre phrase aussi, c'est ces entraîneurs qui ne s'exportent pas.
Mais encore une fois, par exemple, tout le monde dit que grosso modo, les entraîneurs italiens sont les meilleurs du monde. À part Carlo Ancelotti, il n'y a pas d'Italiens qui s'exportent. Donc c'est complètement. Si par exemple.
Il y en a eu quand même. Capello, il s'est exporté. Cannavaro.
Ranieri, il a toujours été considéré comme un loser. Avant de gagner à Leicester, il a toujours été considéré comme un loser. Il a une très mauvaise image. Donc s'exporter, c'est pas non plus un gage de réussite. Nous, on a récupéré André Villas-Boas à Marseille. J'ai pas vu l'identité. Mais je suis pas régalé.
Tu vois, Ranieri, c'est un bon exemple parce qu'on disait de lui, et c'est vrai que c'était un entraîneur de président. C'est-à-dire qu'il avait la classe, il parlait très très bien, il passait très très bien. Il a entraîné de très très bonnes équipes, la Juve et la Roma, sans absolument aucun résultat jusqu'à son titre avec Leicester. Mais il avait la carte auprès des présidents et il a fait une carrière. Ce qu'a pas, par exemple, un entraîneur comme Laurent Blanc.
Moi, ce qui m'énerve aussi, c'est que s'exporter, ça a l'air d'être la chose la plus extraordinaire qu'on arrive. Mais on est bien chez nous. nos entraîneurs, ils sont bien chez nous. Notre Ligue 1, c'est quoi notre beau football? C'est l'essence du football, ne pas perdre. Ça, c'est magnifique. Le football, c'est ne pas perdre. Quand vous perdez pas, vous êtes un héros, vous vous maintenez, vous pouvez gagner, etc. Nos entraîneurs, ils sont là pour ne pas perdre. Ils le font très bien. Nos Comboiré, même mon Domenech qu'on a viré, là, je sais pas pourquoi, à Nantes, il y était très bien. Nos entraîneurs français, ils sont rigoureux. Donc, ce monsieur qui nous critique, il n'a rien compris, non seulement au football, mais au football français, à l'esprit de la France. Très franchement, je comprends que tout le monde le dézingue.
Je crains qu'on vous réponde que vous ayez peut-être une vision un peu étriquée du football. Cher Gilles.
En tout cas, essentiel. Ma vision est essentielle. C'est l'essence même du football que je défends, comme nos entraîneurs français.
On va tourner une nouvelle page de publicité et je vous posais la question jusqu'à 19h. Est-ce que là, il s'est bien mis la pression quand même, Pablo Longoria, parce que les résultats vont devoir suivre. Alors peut-être pas, enfin, même sûrement pour la fin de saison tout de même, il y a une place européenne à accrocher, mais pour la saison suivante surtout. A tout de suite.
On refait le match sur RTL. Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
On fait le match avec Dominique Sévrac, Florian Gazan, Gilles Verdez, Baptiste Després. Et à partir de 19h, pour parler de l'AS Saint-Etienne, Bernard Lyon, je montre de nouveau le bouquin de Bernard aux caméras. Derrière la porte verte, histoire secrète de l'AS Saint-Etienne 2020. On en parle après les informations de 19h. Est-ce que les entraîneurs français sont nuls? Réponse de Zidane cet après-midi. Ah. Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je pense que la formation est très très bonne en France, au niveau des joueurs, des entraîneurs et des préparateurs physiques, à tous les niveaux. Donc je ne partage pas ce point de vue, bien au contraire, il le répète une deuxième fois, bien au contraire.
Bien sûr, il a tout dit. C'est bien, c'est Zidane, vous voyez. Zidane, il est là, tout en haut, et Longoria, il est tout en bas.
La pression que se met quand même Pablo Longoria désormais pour avoir deux bons résultats et avec un entraîneur étranger, il y en a un qui avait, enfin, de mon point de vue, il y en a un qui a quand même pas réussi. Ça me fait marrer, moi, Bielsa, de dire on a pris notre pied. Les supporters marseillais préfèrent prendre leur pied et avoir du plaisir en perdant les matchs ou avoir un peu moins de plaisir, mais en gagnant des trophées, franchement.
Je pense qu'ils ont pris un pied pas possible parce que en football, enfin, moi, contrairement tous, à ce que dit Gilles, moi je pense que la victoire ne donne pas toujours raison. Parce qu'on gagne, qu'on a raison, toujours.
En tout cas, quand on perd, on a tort.
Mais je sais pas, mais Diego Simeone a été. Il a gagné la Ligue Europa, il a gagné le championnat espagnol avec un football que je n'aime pas. Donc pour moi, il a raison dans sa logique à lui, mais ça fait pas de lui pour moi. C'est pas parce qu'il a gagné qu'il a raison. Donc les supporters de l'OM vénèrent Bielsa pour ce qu'il incarne, pour l'idée du déséquilibre, pour l'idée du football. Mais c'est partout pareil. Hein. Leeds, c'est pareil. Il fascine les gens.
Bernard Lyons, là, il va falloir que Longoria se donne lui-même raison pour les échéances à venir.
Oui, alors juste un mot sur Bielsa, parce qu'il avait une folie intérieure qui plaisait beaucoup aux supporters marseillais, ce côté un peu méridien de Sancho. Qu'a aussi Sampaoli. Enfin, Sampaoli, si vous parlez de projet de jeu identifié et de résultats, parce que l'un va quand même pas sans l'autre, c'est mieux d'avoir les deux. Je vois pas où Sampaoli, il a beaucoup réussi, à part quand il était à la tête avec le Chili. Moi, je garde pas un souvenir impérissable de l'Argentine de Sampaoli, par exemple. Alors, je veux bien qu'il critique les entraîneurs français pour valider son choix d'avoir pris un entraîneur étranger, mais là, il va falloir que ça se concrétise. Maintenant, comme Sampaoli a autodécrété que cette fin de saison était en roue libre et qu'il n'avait aucune obligation de résultat, je trouve ça quand même assez extraordinaire, alors que l'OM court quand même a pris une place en Ligue Europa, c'est-à-dire un statut de club européen qui doit être le statut de l'OM, ils se sont complètement enlever toute pression, toute responsabilité s'il rate cette fin de saison.
Ceci dit, le choix de Sampaoli, c'est assez intéressant par rapport à son discours. En gros, ça veut dire que aussi on prend un entraîneur, c'est du marketing l'entraîneur aussi. Comme quand on recrute des joueurs, aujourd'hui, on recrute un entraîneur, bah là, Sampaoli, pour Marseille, c'est l'école Bielsa, il a des tatouages, il est argentin, il est un peu loco. Donc il le prend aussi pour ça. Il le prend aussi pour faire plaisir aux supporters. Donc aujourd'hui, dans le choix d'un entraîneur, et peut-être que nos entraîneurs français, justement, manquent un peu de ce charisme-là, manquent de raison. Certains manquent d'agents. On sait que Genesio a pris un gros agent, bizarrement, bing, il revient à Rennes. Donc peut-être aussi qu'il n'y a pas cette culture-là, mais parce qu'aujourd'hui, un entraîneur, c'est du marketing. Ce que disait Denouex dans l'équipe, pourquoi est-ce que Aymeri, il vient à Paris? Bah, parce qu'il a gagné trois fois la Ligue Europa, donc pareil, il dit on prend un entraîneur vainqueur.
Donc Christophe Galtier, qui est le meilleur entraîneur de la Ligue 1 cette saison, on va le faire tatouer partout.
Sur
les jambes, sur les avant-bras, etc. Et il va partir dans un grand club étranger.
Et qui a failli tenter l'expérience en Angleterre.
Aston Villa, et c'est finalement Rémy Garde qui est allé. Et six mois après, Rémy Garde est descendu.
Baptiste,
je rejoins Bernard là-dessus, sur le côté à la fois projet de jeu de Sampaoli, ok, très bien, mais après derrière, il y a le projet du club. Sampaoli, c'est quand même un entraîneur qui reste quoi, un, deux, trois, allez, deux ans maximum. Ouais, maximum. Dès qu'il va y avoir un gros problème, il va partir, ce sera terminé. Et derrière, ce sera la politique de la terre brûlée. Donc en termes d'ambition à moyen terme, c'est quand même relativement discutable.
Vos messages sur le compte @RTLFoot relayé par Baptiste Durieux.
Voici le message très intéressant de Nicolas. Il nous dit, voici les dates des débuts en Ligue 1 des coachs qui critiquent Longoria: Domenech 88, Antonetti 94, Comboré 2003, Fournier 2012, Genesio 2015 et Moulin 2015. Palmarès total avec toutes ces années, une Coupe de France et 4 titres de champion de Ligue 2, tout est dit. Message de Jordan, la réaction au propos de Longoria témoigne d'une inquiétante incapacité à se remettre en question. Il est là le problème du foot français, on attend la réaction de Pascal Duprat, il ne manque plus qu'elle. Et Fabrice nous dit, vous noterez que Pablo Longoria a parlé de concept de jeu, mais qu'aucun des coachs qui a pris la parole n'a parlé de concept de jeu. Aucun n'a expliqué sa philosophie ou ses idées sur le football. Toutes les déclats des entraîneurs prouvent que Longoria a tapé là où ça fait mal.
À l'évidence, il y a deux courants d'opinion. Hein. Et sur les réseaux sociaux, pro-Longoria, et ici, en studio, anti-Longoria. En tout cas, anti-discours tenu par Pablo Longoria. La pub, les informations de 19h et ensuite la Saint-Etienne. Saint-Etienne est à vendre, c'est une bonne ou une mauvaise affaire ?
RTL,
on refait le match.
Les informations de 19h. Avec Irène Candel. Bonsoir Irène.
Bonsoir Christian. Le prince Philippe repose désormais dans le caveau royal de la chapelle Saint-Georges à Windsor, après une cérémonie sobre ainsi qu'il l'avait souhaité. La cérémonie a débuté avec une minute de silence observée dans tout le royaume. La reine, masquée et vêtue de noir, était assise seule dans la nef devant le cercueil de son époux, avec elle 30 personnes, des intimes. Les princes William et Harry, séparés par un cousin lors de la procession, sont sortis côte à côte de l'église, échangeant même quelques mots. Depuis l'interview donnée par le couple Sussex il y a quelques semaines, les relations entre les deux frères sont tendus. Le délit d'écocide adopté par l'Assemblée nationale aujourd'hui dans le cadre de la loi climat. L'intention délibérée de polluer les eaux, l'air ou les sols sera punie. Le délit est assorti d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et 4,5 millions d'euros d'amende. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, Jean Castex a annoncé ce matin le déblocage d'1 milliard d'euros pour les agriculteurs touchés par le gel il y a 10 jours. Ce fonds s'ajoute aux autres aides déjà mises en place. Un candidat commun pour la gauche et les Verts à la présidentielle. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, y croit. Une vingtaine de responsables des partis de gauche et écologistes étaient réunis ce matin. S'il existe encore des désaccords, les participants ont en tout cas convenu de se revoir fin mai. 3 millions de personnes sont mortes dans le monde depuis le début de la pandémie de Covid fin 2019. Le seuil a été franchi aujourd'hui. En France, la Guadeloupe fait face à une flambée de cas positifs, plus 40% en une semaine. Des nouvelles mesures de restriction entrent en vigueur aujourd'hui. Le couvre-feu est avancé à 19h. Côté vaccination, enseignants, policiers ou gardiens de prison peuvent dès aujourd'hui recevoir une première injection. Seul critère, avoir plus de 55 ans. Football, 33e journée de Ligue 1. Cet après-midi, Rennes s'est imposé face à Angers 3-0. Marseille l'a emporté 3-2 face à Lorient. En rugby, 21e journée du top 14, Castres victorieux contre le Stade Toulousain 26-24. Ce soir à 21h, La Rochelle, Lyon. Enfin, en Formule 1, Lewis Hamilton s'élancera demain en pole position au Grand Prix d'Émilie-Romagne. À suivre à 20h, RTL Foot avec Philippe Sanfourche, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. Les courses demain, 16 partants pour le prix du Panthéon. Les pronostics de Dominique Cordier: le 7, le 2, le 9, le 14, le 3, le 6 et le 4. La dernière minute, c'est le 9, Badenrox. Le temps demain, le ciel reste chargé sur l'est du pays et la Corse. Toujours un peu de neige en altitude sur le massif alpin. Dans l'après-midi, averses et orages sont à prévoir de la Provence au Languedoc-Roussillon avec de fortes rafales de vent. Les températures se radoucissent très doucement, 12 à 15 degrés généralement sur le pays, jusqu'à 19 degrés à Perpignan et Montpellier. Tout de suite, on refait le match avec vous, Christian.
Merci, Irène. Prochaines informations, 20h.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match avec Dominique Sévrac, le Parisien, aujourd'hui en France. Baptiste Després, le Figaro. Le procureur d'On fait le match, Gilles Verdez. Et la polyvalence, exprimé à son paroxysme, Florian Gazan. Et puis notre invité en loge VIP, Bernard Lyon.
C'est très bien, où je suis.
Pour parler de l'AS Saint-Etienne. Tout va bien avec.
J'ai une vue formidable sur le plateau. Je vous regarde tous.
Alors, cher, il faut respecter les consignes sanitaires. Derrière la porte verte. Alors, je rappelle les scores pour tous ceux qui nous rejoindraient malgré tout. Tout de même, la victoire de Marseille in extremis sur Lorient, 3-2. Marseille toujours en course quand même, pour une place européenne, plus que jamais.
Sampaoli toujours dans les dernières secondes.
Rennes. Oui, toujours.
C'est sa marque ici. À chaque fois, je dis Sampaoli est merveilleux parce qu'il gagne dans l'air d'un son. On ne dit pas toujours. Bah, encore une fois, Sampaoli au Panthéon et Longoria à la cave.
Genesio au Panthéon ou pas? Rennes qui est allé gagner à Angers 3-0.
Ah oui, Genesio, oui, la classe.
Trois camps, victoire de 3, c'est la Ligue 2, 1-0. Et clairement, le Havre, un but partout.
Un modèle.
Bon, les amis, on a parlé donc de Longoria, de Marseille, de ses déclarations, des réactions des entraîneurs. On va parler de Saint-Etienne. Saint-Etienne est à vendre. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise affaire? Mais on va d'abord parler un peu du magnifique bouquin de Bernard Lyons, Derrière la porte verte, histoire secrète de l'AS Saint-Etienne 2000-2020, à retrouver chez Solar Éditions. J'ai deux questions, Bernard. Avant de parler de la vente de l'AS Saint-Etienne. Aurait-on tenté d'empêcher la sortie de ce livre?
Non. Vous êtes en train de me dire que l'AS Saint-Etienne aurait fait pression sur...
Non, justement. J'ai mené ma petite enquête, j'ai eu des retours qui m'ont expliqué qu'il n'était pas possible que ce bouquin sorte sous la bannière de l'éditeur qui travaille pour le club stéphanois, qui est sous contrat.
Qui était aussi mon éditeur.
Mais c'est tout, voilà. Donc voilà, est-ce que ce livre dérange en vérité? Voilà, c'est la question.
Écoutez, force est de constater que oui, puisque mon éditeur précédent a renoncé à publier le livre, j'ai dû récupérer les droits, j'y suis arrivé, c'était assez compliqué, et trouver un autre éditeur pour pouvoir le publier. Donc je pense que oui, ce livre dérangeait, même s'il a été fait en toute transparence avec les dirigeants de la Saint-Etienne, parce qu'ils ont été prévenus en amont que je rédigeais ce livre pendant le premier confinement, c'est un enfant du confinement, et que sur les 92 personnes que j'ai sollicitées, 89 ont accepté de m'aider.
Vous n'en citez aucune, hein.
En parfait anonymat. Ben oui, comme ça a permis de libérer la parole, et ça leur a évité des coups de bâton. Et vous pensez bien que sur les 89, ben c'est possible qu'il y ait quand même quelques dirigeants de la Saint-Etienne.
Alors vous remontez à 2000, je me suis dit tiens, il va y avoir des trucs sur la caisse noire de la Saint-Etienne, mais non, vous n'êtes pas allé à 1980, 82, 83.
Non. C'était pas le but, parce que j'avais déjà écrit l'autobiographie de Jean-François Lorient, j'ai joué avec le feu, ça a daté de 80, je voulais faire un livre un peu plus moderne.
Ça se déguste vraiment avec gourmandise, il y a 72, hein, c'est ça. 72.
J'ai pris soin de ne pas m'arrêter à 69.
72.
Malgré le titre.
Alors,
c'est pas en fonction du titre, c'est du voisin lyonnais.
Alors, on se rappelle, au gré des histoires, des révélations, des indiscrétions, des coulisses, on se rappelle que Rudy Garcia, avant d'être entraîneur, avant d'être adjoint entraîneur, a été préparateur physique.
Ah, c'était l'homme à tout faire. Il a même été chauffeur d'Otochac au début de 2000-2001. Et puis finalement, après, Tochac a claqué la porte.
Le Gallois, Yann Tochac.
Il a claqué la porte du jour au lendemain. C'est un épisode assez incroyable. Et il y a eu un binôme, alors bancal. Vous savez, les binômes à Saint-Etienne, c'est toujours bancal. Avec Jean-Guy Wallem, qui a fini par être écarté. C'est Rudy Garcia qui a brillamment conduit la Saint-Etienne jusqu'à la relégation.
Yann Tochac. Yann Tochac. Donc, il est resté combien de temps
Il est resté 6 mois.
6 mois quand même.
Oui, c'était. Il est arrivé un peu par hasard et il est reparti.
Pas par hasard,
par sa volonté. Et il a mis ses clubs de golf dans le coffre. Les joueurs l'ont vu passer au club. Il attendait pour l'entraînement. Et ils ont vu fermer le coffre de la voiture avec plein de caisses de vin, parce que c'est un grand amateur de vin, un épicurien, Tochac. Et puis il est parti.
Alors voilà, c'est une suite d'histoires, messieurs, vraiment à succuler. Je recommande ce bouquin aux auditeurs de RTL et aux autres. Laurent Huard, alors ça c'est un peu moins drôle. Laurent Huard, qui était un très bon joueur de football, a eu des problèmes cardiaques. Il s'en est sorti, il a dû arrêter prématurément néanmoins sa carrière. Puis un jour, l'épouse de Laurent Huard reçoit un coup de fil de l'épouse d'un autre joueur en disant, dis-moi, mon mari a pris sa douche après je sais plus quel match avec Laurent Huard, il a des problèmes cardiaques, ça va mieux? Oui, ça va, c'est pas contagieux.
J'ai pris soin par décence pour le couple d'amis de Laurent Huard, qui vit toujours avec une pile au cœur aujourd'hui, hein. Il a été opéré
un bon joueur de foot, hein, Laurent Huard.
Ouais, super joueur et super entraîneur. Il va accéder à la direction du centre de formation de la Saint-Etienne, ça c'est une très très bonne nouvelle. Mais par décence pour le couple d'amis, je n'ai pas cité les noms.
Alors,
mais je les ai, j'ai tous les noms.
Vous les citerez un jour ou pas? Non, pas ça, c'est pas bien. Frédéric Antonetti, tiens, on en parlait, les entraîneurs français, avec le Brésilien Alex. Alors eux, ils se sont battus dans les vestiaires avec des couteaux.
Non, c'est lors d'un match de préparation à Vichy.
Il
s'entendait pas. Alex voulait pas rester en D2. Il revenait du PSG. Il n'est pas du tout envie de. Et puis il s'entendait pas avec Frédéric Antonetti. Puis Frédéric Antonetti, mais pas son comportement de
starlet. Incroyable quand même.
Et puis un soir, un repas lors d'un match de prépa, d'un stage de préparation, il était au téléphone à table et ça Antonetti l'a pas supporté. Il lui a dit coupe ton téléphone. Ils se sont un peu insultés. Et puis un Corse, l'autre Brésilien, ça finit à coup de couteau.
Allez, il y en a deux trois comme ça.
Trois jours après, il a été exfiltré au Brésil quand même.
Et d'ailleurs, il a été champion du Brésil avec.
Oui, dans la foulée.
Dans la foulée.
C'est son seul titre.
Vasco de Gama, je crois. Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, champion du Brésil. Feinduno, alors lui, il est arrivé dans un état pitoyable à l'entraînement, ramené par la police après une soirée et une nuit très arrosée.
Ben oui, ça, il avait besoin de décompresser souvent Pascal Feinduno avant des matchs. Et il est sorti.
Même pendant, des fois.
Mais c'est un joueur extraordinaire avant les matchs. Et puis, il a été malencontreusement pris dans une rafle parce qu'il y avait une bagarre dans le bar où il était. Il s'est retrouvé en cellule de dégrisement. Il est arrivé le lendemain matin. Il a quand même joué. Ça lui est arrivé aussi à Pascal Feinduno, après les entraînements. C'est-à-dire, vous savez, à l'époque, il y avait des décrassages le dimanche matin, de s'endormir sur le terrain d'entraînement.
Alors, les joueurs aiment la fête, mais il y en a un qui est devenu consultant maintenant, sur une radio concurrente et néanmoins amie, Frédéric Piquionne. Et lui, il a fait la fête au point que finalement, il y avait une demi-finale de Coupe de la Ligue à disputer. Et lui et quelques joueurs étaient tellement fatigués, pour ne pas dire plus, que cette finale, ils l'ont perdu. Et cette demi-finale, ils l'ont perdu.
Ouais, c'était une demi-finale à Strasbourg. C'était l'occasion inespérée pour Saint-Etienne de revenir à Paris. Vous savez, c'était les Verts à Paris. C'était un mythe dans les années 80. Et puis, l'Ibop a les acérés. Il les a amenés en stage à Cannes, où là, ils ne sont pas sortis. En fait, si, ils sont tous sortis. Enfin, au moins la moitié de l'équipe. Et c'était les plus talentueux parmi eux. Donc, il y avait Piquet, mais il y avait aussi. Comme par hasard, Pascal Feinduno, ils ont lamentablement perdu cette demi-finale.
Ou comme Diawara, qui lui a fait perdre quasiment son équipe en finale.
Non, c'est un match au Stade Vélodrome. Match de Fousini et Diawara. Oui, c'est extraordinaire.
Parce qu'il n'avait pas de maillot.
Loïc Perrin se blesse. C'était au mois de novembre. Il faisait très très froid.
Il doit s'échauffer. Enlève ta parka.
Il enlève la parka. Il est torse nu. Voilà. Il a oublié. Alors le truc qui était extraordinaire, c'est qu'il avait oublié. Il avait oublié son maillot dans le vestiaire. Et donc Fred Emmy, l'intendant, part chercher le maillot. Alors c'était au Stade Vélodrome. Mais quand il arrive, vous savez, il y a des trappes. Il y avait la trappe. À l'époque, la trappe était fermée, il n'avait pas la clé. Il est revenu, il est reparti, il est revenu, il a fini par mettre le maillot. Il s'est passé 18 minutes, et entre-temps, Saint-Etienne s'est retrouvé à 10 contre 11 et a encaissé 2 buts.
Bon, c'est un bouquin génial, c'est marrant et tout. C'est pas un bouquin vraiment à censurer, sauf que, et là on va faire la transition, sauf que quand vous évoquez le tandem, l'association Cayazo-Romeyé, vous dites que ça a été folklorique au moment de la construction de ce binôme et que la suite le sera tout autant. Et on en parle parce que ce binôme continue de fonctionner, mais peut-être plus pour très longtemps, car cette semaine, l'AS Saint-Etienne, ses deux dirigeants ont annoncé dans le Progrès courrier que le club était à vendre. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise affaire? Bernard, tu peux y répondre bien sûr, et nos amis autour de cette table ont sans doute leur avis. Est-ce que c'est une bonne affaire, l'AS Saint-Etienne?
Alors, je vais répondre à une question par une question, ce qui est très mal élevé de ma part, vous m'excuserez, mais c'est une bonne affaire pour qui? Pour les deux présidents qui sont co-actionnaires majoritaires de l'AS Saint-Etienne ou pour l'éventuel repreneur?
Pour le repreneur, les supporters veulent déjà savoir qui va reprendre le club.
Parce que vu la situation financière dans laquelle se retrouve le club, effectivement, aujourd'hui, c'est une très bonne affaire pour Bernard Cayasso et Roland Romeyé de vendre le club parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous savez qu'à la différence, par exemple, d'un Valdemar Quitta à Nantes ou d'un Franck McCourt à Marseille, ils n'ont pas la surface financière nécessaire pour pouvoir amortir et digérer les pertes de cette saison et pouvoir cautionner le prochain budget prévisionnel. C'est pour ça qu'ils ont mis le club en vente. Maintenant, si vous êtes repreneur, est-ce que c'est à ce moment-là précis, c'est-à-dire quand vous ne connaissez pas le montant des futurs droits télé, on n'a pas encore la connaissance sur 2021-2024, de racheter un club qui est endetté et qui va devoir encore beaucoup, beaucoup vendre, faire tout ce qu'il peut pour pouvoir boucher le trou.
Et puis surtout, messieurs, Baptiste Després, Gilles Verdez, Florian Gazan et Dominique Sévrac, ça va être une période d'incertitude monumentale pour l'AS Saint-Etienne.
Et oui, mais tu...
Baptiste Després.
J'ai juste une petite question pour Bernard. Dans le duo, justement, qui est un peu particulier, qui a le plus envie de vendre dans ce duo-là?
Alors, ça dépend des périodes. Quand le Saint-Etienne perd, Roland Romeyé veut absolument vendre. Il n'en peut plus. Là, comme ils ont recommencé à gagner, ça va un petit peu mieux. Maintenant, il est quand même gagné par l'âge. Roland Romeyé, il a été frappé assez durement par le Covid. Bernard Cayasso, lui, est exilé depuis le début du confinement. Donc, ça fait plus d'un an à l'étranger, où il gère le club d'une main de maître, mais à distance, par mail. Et lui aussi, qui est beaucoup plus jeune, puisqu'il a 67 ans, on sent ces derniers temps quand même une certaine lassitude. Et peut-être que cette fois-ci, ils seraient enclins à vendre. Là, toute la question est de savoir, est-ce qu'ils vont être les deux, s'ils ont des offres, sont d'accord pour vendre au même repreneur.
J'aurais pu poser la question différemment, messieurs Saint-Etienne, monument en péril. Dominique Sévrac.
Moi, je trouve que c'est une part du mythe du football français que tu peux acheter. Si, et donc, c'est... Ça, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix, entre guillemets, quoi. Quelles que soient les dettes, les caisses pleines ou vides, il y a quand même peu d'occasions d'acheter, encore une fois, une part de gloire du football français, une part essentielle. Les cadras, les quincas, ils ont grandi avec Saint-Etienne. C'est un club qui a fait rêver toute une partie de la France. C'est, pour moi, oui, c'est un des clubs mythiques de la France, quoi.
Gilles Vernez, ouais,
moi, je suis pas d'accord parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a des cadavres dans le placard. J'ai l'impression que c'est pas net. La dernière fois, quand ils avaient voulu vendre, ils avaient une surenchère de dernière minute. Tout n'est pas réglé. Est-ce qu'ils sont vraiment les président, il y avait un contentieux avec un troisième gars. Avec eux, c'est jamais clair. On ne sait pas qui les tient les parts, on ne sait pas si c'est vrai. Ils disent, on vend le club 20 millions. Alors, mais 20 millions, c'est parce qu'il y a tellement de pertes derrière que moi, j'aurais peur d'être ruiné. Donc non, pour moi, il ne faut pas acheter ce
gars,
club. Le
troisième gars, c'est Adao Carvalho. Ah, oui. Il y a même des parts qui ont été confisquées,
voilà,
par l'État.
Exactement.
Par l'État.
Ça, c'est quand même unique dans les annales du football français. C'est-à-dire qu'il y a 22% du capital du club qui a été saisi par la justice. Et donc, aujourd'hui, est toujours mis sous séquestre. Alors, c'est un terme juridique un peu particulier, mais effectivement, Gilles a tout à fait raison. Vendre le club, pour être tout à fait précis, messieurs Cayasso Romeyer vendrait les parts, leur part du club. Pas l'intégralité du club.
Moi, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est l'impression qu'ils vendent le club pas pour le bien du club, mais pour leur bien eux déjà, et que finalement ils cherchent surtout à s'en débarrasser parce que bon, toute la situation est compliquée pour eux. Donc du coup, ils vont vendre à qui? Ils vont vendre à quel prix? Si c'est pour refaire de Saint-Etienne un nouveau Girondin de Bordeaux, c'est-à-dire un club qui est vendu à un fonds de pension à n'importe qui a pas les moyens d'investir et qui est en train de mourir, Saint-Etienne, c'est trop beau pour que ça devienne ça. Parce que c'est bien d'acheter un club, mais une fois qu'on l'a acheté, bah après il faut investir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu mets pas de 150 millions sur la table, voilà, tu vas être un petit club qui va vivoter et qui sera revendu dans 2-3 ans. Donc si c'est ça le projet, bon...
En plus, ça peut rapidement être un cadeau empoisonné. Je suis d'accord avec toi, Dominique, sur le côté effectivement mythe du football français, etc. Mais aujourd'hui, si tu achètes Saint-Etienne, le bilan quand même de Romeyer et Cayasso depuis combien? Depuis quasiment 18 ans
2004.
Voilà, 2004, est quand même plutôt positif dans sa globalité. Et au niveau des... Ils ont eu Coupe de la Ligue, c'est ça?
Ouais,
Coupe de la Ligue, retour en Coupe d'Europe.
Donc, enfin, sous le tandem Cayasso Romeyer, il y a eu une Coupe de la Ligue et le retour à la Coupe d'Europe. Mais c'est tout. Enfin, je veux dire,
c'est le retour quand même durable dans le top 6 français. Ce qui était plutôt bien après 20 ans de flottement.
Avec Galtier,
merci Galtier. Parce que derrière, Gilles Verdez, avant une page de pub.
Moi, ce qui me dérange, c'est que Saint-Etienne, c'est une âme. C'est une représentation du football français tel qu'il était et tel qu'il doit être. Ils disent eux-mêmes, on est l'un des rares clubs à ne pas être détenu par un fonds de pension étranger. Mais j'espère que Saint-Etienne va rester franco-français. Sinon, c'est la fin de cet esprit du football français. C'est le football français qui va mourir si on vend Saint-Etienne à des Américains ou des Chinois. Ce sera absurde.
Derrière la pub, les amis, on va parler encore un petit peu de la Saint-Etienne. Il y a une phrase, moi, qui m'a choqué de Cayasso il y a quelques temps en disant, bon, pour ceux qui connaissent pas le foot, attention, Saint-Etienne, c'est pas une ville très attractive. Hein.
Non, là, Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne, ouais, avait apprécié.
La pub, et on parlera encore un tout petit peu de la Saint-Etienne. Mais vraiment, ce bouquin, on ferait un mix entre l'actualité, la Saint-Etienne, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise affaire, et un mix avec l'excellent bouquin de Bernard Lyons, Derrière la Porte Verte, je vous le conseille. Combien ça, 17,90€.
Oh, c'est misère.
C'est cadeau.
C'est beaucoup moins cher que Saint-Etienne.
Publicité.
Quoique. RTL, on refait le match. RTL, on refait le match. Christian Olivier.
On fait le match à 19h19. Gilles Verdez, le procureur, Baptiste Després, Le Figaro, c'est Vorak de son prénom, Dominique, le Parisien aujourd'hui en France, et Florian Gazan pour RTL. Et bien sûr, on parle de l'AS Saint-Etienne. Bernard Lyons, Derrière la Porte Verte, histoire secrète de l'AS Saint-Etienne. Alors, on a parlé des anecdotes un peu moins contemporaines. On a parlé de la vente de l'AS Saint-Etienne. On a parlé de Romeyer et on a parlé également de Cayasso. Est-ce qu'on a une deadline sur cette vente ou est-ce que ça risque de durer longtemps?
Ben, pour mémoire, il y a 3 ans, parce qu'on a l'impression que c'est nouveau.
Il y avait déjà des Américains sur le coup.
Oui, que le club est en vente. Pas du tout. En 2018, le club était rentré en négociation exclusive avec un fonds d'investissement qui s'appelait Pyxis. Et la vente était pratiquement faite. Et puis, alors, concours de circonstances incroyables, la vente a été annulée. Et quelques jours après, on a annoncé le jackpot des nouveaux droits télé avec Mediapro. Et forcément, ça, ce n'est qu'une coïncidence. Là, le processus, d'après ce que m'ont expliqué les experts, parce que vendre un club, c'est pas si rapide que ça, il y a tout un process, ça serait pas avant février 2022. Maintenant, il y a la DNCG, Il y a les nouvelles directives de la DNCG avec des fonds qui doivent être assurés pour pouvoir repartir. La grande crainte de la DNCG, c'est de laisser passer les comptes de certains clubs, notamment sur un trading hypothétique de vente de joueurs, etc.
Les cadavres dont parlait Gilles Vernet.
Voilà, et qu'au mois d'octobre-novembre, tu te retrouves avec 4-5 clubs en faillite. Mm-hmm. Donc là, la DNCG va être très pointilleuse et peut-être que ce problème-là, devant la DNCG, va précipiter la vente du club.
Gilles Vernet.
Et contrairement à d'autres... président, les deux présidents de Saint-Étienne, eux, ils ont des fonds limités. Donc là, ils sont coincés, étranglés. Et la problématique, c'est que effectivement, pour l'acheteur, il va se dire, mais je rachète quoi ? Est-ce que je rachète un club avec encore, entre guillemets, du matériel humain, c'est-à-dire des hommes, des joueurs qui valent quelque chose ? Ou est-ce que je risque de racheter un club qui va être rétrogradé au mercato d'après ? Donc franchement, vous allez voir que cette vente-là, on n'y est pas encore.
On est d'accord sur le dilemme ?
Le risque de faillite, il existe, Bernard, ou pas ?
Les dirigeants disent sous couvert que jusqu'au 30 juin, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème pour boucler cette saison. La problématique, c'est de pouvoir enclencher la prochaine. Donc, à mon avis, ils vont essayer de vendre ce qu'ils peuvent vendre, notamment quelques jeunes prometteurs, dans un marché, sur un marché des transferts déflationnistes. Donc, ça ne sera pas les sommes. Il faut quand même dire les choses clairement. S'ils n'avaient pas vendu Wesley Fofana près de 40 millions d'euros à Leicester l'automne dernier, ils n'auraient pas pu terminer la saison.
Les supporters de la Saint-Etienne ont de quoi s'inquiéter, parce que ce qu'on a pu aussi comprendre, c'est que maintenant, il n'y avait plus aucune dépense à faire. Il fallait arrêter de dépenser, donc d'investir, donc de préparer déjà la saison prochaine avec ou un nouvel investisseur, on n'en sait rien, mais de préparer la saison prochaine, c'est déjà un problème pour les Verts.
Le problème, c'est que là, ils essaient de blinder ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant, blinder les contrats des jeunes joueurs. Il y en a beaucoup qui arrivent à un an de la fin de leur contrat. Je pense notamment à Imen Mouefek, qui est un des joueurs les plus demandés, notamment par Naples et en France par des clubs comme Angers. Donc lui, il a une petite valeur marchande, mais il reste qu'un an de contrat. Donc tu ne vas pas pouvoir le vendre très cher. Ça veut dire que pour boucher les trous, tu vas être obligé d'essayer de multiplier les ventes. Et donc forcément, de t'appauvrir et d'appauvrir ton vivier, c'est-à-dire ce qui est censé être l'avenir immédiat de ton club.
Et le problème, c'est que tout le monde sait que Saint-Etienne est vendeur, donc évidemment, ils vont pas se rouler sur les joueurs, ils vont attendre que ça brade. Et un investisseur, moi, à la rigueur, j'attends que le club soit en faillite, comme ça, je le récupère pour un euro symbolique.
Aujourd'hui, Bernard, combien ça coûte Saint-Etienne ?
Alors, ça dépend des estimations. Ça dépend si on parle de reprise ou de vente. Donc, c'est-à-dire la reprise, c'est quelqu'un arrive, récupère les dettes parce que et les emprunts, parce que Saint-Etienne, comme beaucoup de clubs, ont contracté un PG, un plan garanti par de l'État. Mais aussi, il y a deux ans, des emprunts toxiques à l'étranger, en Angleterre, en Allemagne, dont une partie reste à rembourser maintenant, avec des taux très très élevés. Donc il y a cette situation financière qui est compliquée. Alors, si c'est pour reprendre le club, c'est dans les 50 millions d'euros. Si c'est racheter le club, il faut plutôt compter un billet de 100 millions d'euros pour pouvoir le reprendre et repartir. Mais comme le disait Florent Ganzan à l'instant, après, il faut investir.
Monument en péril, la Saint-Etienne, je pense aussi aux Girondins de Bordeaux, du reste. Il y aura peut-être d'ailleurs une question dans les tirs au but concernant les Girondins de Bordeaux, Gilles Verlaise, mais concernant Bordeaux, la situation est guère reluisante également, et je pense que les supporters, malheureusement... en ont de plus en plus soupé de cette non-communication.
Ça m'a l'air pire quand même à Bordeaux.
À Bordeaux ?
Ça m'a l'air pire. Je pense qu'on en est sur une perte d'âme totale avec un investisseur qui fait tout pour casser un esprit girondin qui a été incarné par Alain Giresse notamment. Je pense qu'on est vraiment... ça va au-delà encore.
Les pertes sont beaucoup plus importantes. Au bas mot, ça sera moins 75 millions d'euros en fin de saison. Et il y a aussi le risque qu'ils descendent. Parce que là on parle d'une situation où Saint-Etienne, bien entendu, restera en Ligue 1. Parce que s'ils descendent, ils mettent la clé sur la porte. C'est clairement. Et Bordeaux, s'ils descendent, c'est une catastrophe économique. Sportif.
On parle souvent des supporters. Ce sont deux clubs-là où les supporters sont très mécontents. Les supporters des Verts ne cessent de manifester leur hostilité à l'actuelle direction en disant « mais où on va ?» Les supporters bordelais, n'en parlons pas. Donc on ne peut pas, on a souvent ce débat, on ne peut pas se passer des supporters. Quand vous mécontentez les supporters, quand ils ne sont plus là, effectivement, quand il n'y a plus l'esprit, quand il n'y a plus ce qui est l'incarnation du club, l'âme, eh ben, il n'y a plus rien. Et le football français ne peut pas se passer des supporters.
La différence, Gilles, c'est que quand les Stéphanois manifestent, je vois contre qui manifestent, Caillazo et Romeillet. Quand les Girondins manifestent, je ne sais pas contre qui manifestent, parce qu'il n'y a pas en face une incarnation d'un pouvoir. Il y a beau avoir Longue Épée, mais c'est le représentant de l'actionnaire, Frédéric Longue Épée. Mais sinon, quel est cet actionnaire? Qui il est? Où vit-il? Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il aime le football? Ça, on ne sait pas, c'est un mystère pour moi, l'actionnaire des Girondins.
Mais ils sont faits complètement en fumée, les supporters, depuis le départ. On vous vend quelque chose de magnifique et au final, il ne se passe rien. Tu le disais tout à l'heure, il y a une fracture avec les supporters, je le disais. Il ne se passe plus rien dans ce club. On ne sait pas qui dirige. Effectivement, c'est qui entraîne, c'est Jean-Louis Gasset, ça va s'arrêter au mois de juin. Alain Roche, il est là, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas quelle manne financière il a. Il ne se passe plus rien à Bordeaux.
Mais c'est la même à Nantes. Après, le problème, c'est que les supporters, oui, c'est important, mais ils n'ont pas d'argent pour acheter les clubs. Donc malheureusement, ils subissent un peu des situations qui les dépassent.
D'où l'idée de relancer un actionnariat populaire.
Pourquoi pas ?
Voilà. De faire comme en Espagne. Le club de sociaux.
Je vous ai laissé vous exprimer.
Ah oui,
c'est très intéressant. Mais vous voyez le lien qu'on faisait tout à l'heure par rapport aussi au professionnalisme des entraîneurs. Si on avait peut-être des dirigeants un peu plus professionnels également, on aurait peut-être aussi des choix sur les entraîneurs français ou étrangers un peu plus professionnalisés également.
Oui, mais même si à Saint-Etienne, c'est quand même très particulier parce qu'on a une direction bicéphale depuis 17 ans. C'est-à-dire quand l'un dit blanc, l'autre dit blanc-noir. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Je fais juste une parenthèse sur Bordeaux. Il faut quand même rendre.
Rapprochez votre micro.
Il faut quand même rendre à Roland Romier ce qu'a Roland Romier, parce que King Street avait d'abord démarché pour acheter la Saint-Etienne. Et à un moment où le club allait pas très bien, et il a pas voulu parce qu'il sentait pas un fonds d'investissement américain, donc il a éconduit King Street, qui s'est rabattu sur Bordeaux et qui a acheté Bordeaux.
19h27 minutes bientôt, la suite dont on refait le match dans un instant. Les messages sur. Ils sont très nombreux, me souffle dans le creux de l'oreille ou dans l'oreillette Baptiste Durieux. Sur l'AS Saint-Etienne, Baptiste Durieux.
Les supporters stéphanois, effectivement. Arnaud nous dit Saint-Etienne, c'est un palmarès. Une histoire, un peuple, des couleurs, un stade, une ville de football. Sur le papier, c'est peut-être le meilleur club pour investir. Le problème, c'est que sur le papier aussi, il y a la dette, l'équivalent du PIB des États-Unis et tout le reste. Donc ça va être extrêmement compliqué. Message de Simon. Il faut quelqu'un qui aime le foot. Simon qui parle du potentiel repreneur. Quelqu'un qui aime le foot, même pas Saint-Etienne, mais juste le foot. Quelqu'un qui comprend que c'est la réussite sportive qui amène la réussite économique sur le long terme. Pas de modèle type Bordeaux ou Marseille, s'il vous plaît. Aujourd'hui, dans tous les cas, j'ai très peur.
Vous nous rejoignez. Vous nous rejoignez sur le compte @RTLFoot. C'est une émission qui est filmée sur RTL.fr, via le podcast RTL également, et 100% interactive. Allez, pendant deux petites minutes, on va terminer avec le bouquin de Bernard Lyons, Derrière la porte verte. Regardez bien la caméra. Derrière la
magnifique.
Porte verte,
je l'avais magnifique. En VHS, moi.
Alors, tiens, que cache le coup de tête de Dimitri Payet à Blaise Matuidi ?
Derrière la porte verte, une mise au vert un petit peu trop arrosée, semble-t-il.
Une mise au vert arrosée.
Voilà, ce qui fait que quand il arrivait sur le terrain, il n'était pas tout à fait lui-même. Et comme Dimitri Payet et Blaise Matuidi entretenaient un différent qui remontait de leur sélection en équipe de France jeune, l'un était compétiteur, l'autre un peu moins. Et ça s'est mal passé. Et avec cette scène assez incroyable, c'est un moment où Dimitri Payet, qui vient en plein match, mettre un coup de tête à Matuidi, son équipier.
Claude Puel qui arrive sous escorte policière.
Ben oui, parce que comme l'un voulait Claude Puel, Romeyer, et l'autre ne voulait Gassé, c'est-à-dire Cayasso, il y avait un peu des dissensions internes au club. Et Roland Romeyer a eu peur que l'arrivée de Claude Puel se fasse dans le tumulte. Donc du coup, il s'en était ouvert auprès des...
Oui,
ils en étaient ouverts auprès des services de police. Et donc, les services secrets sont venus pour discrètement escorter tout le trajet de Claude Puel et pour le protéger surtout. Et la communication du club a décalé la conférence de presse, l'avancée d'un jour, a appelé les quatre journalistes présents juste une heure et demie avant pour que les ultras n'aient pas le temps d'être prévenus. Il n'est pas le temps de venir perturber la conférence de presse. Donc ça s'est fait tout ça dans l'emporte-pièce. Et la conséquence, ça a été cette conférence de presse ubuesque avec Romeyer qui était couché sur les tuyaux. Enfin, vous avez tout.
C'est génial. Non, franchement, c'est génial, effectivement.
Ouais, et puis surtout, la légende urbaine Feindounou Landrin, tout le monde connaît cette histoire. Ouais, et enfin révélée dans le livre.
C'est une légende, mais elle a été dégonflée.
Ah oui, mais dans le livre, là, il y a tout. Hein.
Ouais. Ben alors justement, vous découvrirez cette légende avec toutes les coulisses de cette légende urbaine dans le bouquin de Bernard Lyons. On poursuit, Bernard, vous restez avec nous quand même.
Oui, avec plaisir.
On va parler du Paris Saint-Germain et tir au but. C'est une nouveauté, une exclusivité, vous allez la découvrir dans un petit quart d'heure environ. La publicité.
On refait le match sur RTL. On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Et le Paris Saint-Germain, on en parle à 19h30 seulement pour tous ceux qui nous reprochent de parler que du Paris Saint-Germain dès 18h30, dès l'ouverture d'On fait le match. Et bien on a attendu délibérément pour tous ceux qui nous rejoindraient une heure pour parler du Paris Saint-Germain. On a parlé de Marseille, on a parlé de Longoria, on a parlé de Saint-Etienne, on a parlé du bouquin de Bernard Lyons. On va tout de même parler du Paris Saint-Germain qui s'est qualifié cette semaine pour les demi-finales de la Ligue des Champions aux dépens du tenant du titre, le Bayern Munich, malgré, mais ça c'est le jeu des matchs aller-retour, vous connaissez le règlement. Une défaite au Parc des Princes, d'ailleurs, une défaite convaincante pour vous, messieurs, malgré la qualification. Malgré la qualification.
Convaincante. Pas méritée, quoi. Ça, le PSG a fait un meilleur match au retour, en perdant, qu'il avait fait un match, un bon match à l'aller, où il avait
durant les 90 minutes,
trois poteaux quand même.
Pour moi,
oui, voilà. Bon, les trois poteaux, c'était pendant les 45 premières minutes de jeu.
Oui, mais enfin, quand même, franchement, ce match.
Vous êtes régalé en seconde période?
Je suis régalé de tout le temps.
Je regardais entre mes doigts comme un film d'horreur, vous savez, quand on a peur qu'il se passe un truc horrible. Mais non, en deuxième mi-temps, c'était un peu compliqué. Mais la première mi-temps, franchement, ça a été maîtrisé. Mais c'est deux matchs inversés, en fait.
Bien sûr.
À l'aller, c'est injuste qui gagne, et au retour, c'est injuste qui perd. Donc,
Gilles Verdez.
C'était réglé au match aller. Et comme nous l'avions prédit, le Bayern sans Lewandowski était une pâle copie du Bayern de Munich et de ce qu'il aurait pu être. Donc voilà. Bah oui, bien sûr, le Bayern sans Lewandowski, c'est comme le PSG sans Mbappé.
Et sans tout le PSG avec Mbappé est inarrêtable.
Avec nous, Émile Leclerc, directeur des études pour Odoxa, Odoxa Winamax, RTL, le sondage de la semaine, le sondage du soir, du samedi soir. Bonsoir Émile.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Consacré au Paris Saint-Germain avec quelques questions et surtout des réponses extrêmement précieuses, riches d'enseignements. Tout d'abord, qualification face au Bayern, Émile Leclerc. Est-ce que le PSG a franchi un nouveau palier? C'est la question que vous avez posée, un nouveau palier européen, nouveau standing européen. Donc pour le Paris Saint-Germain, c'est la question que vous avez posée aux Français et aux amateurs de foot.
Eh bien oui, 72% des amateurs de football pensent que le PSG a franchi un nouveau palier. C'est vrai que c'est la deuxième demi-finale consécutive, après plusieurs années à buter sur les huitièmes, voire sur les quarts de finale. Sur le match, ils considèrent aussi que c'est une victoire méritée, 67%, plus qu'un exploit à 53%. Et surtout, c'est un match et une qualification qui restera dans l'histoire du club, en éliminant le Bayern de Munich. Chez les Français, en revanche, on voit que l'écho est un peu moins grand, hein, donc ça concerne surtout les amateurs de football. Il va falloir aller plus loin et sans doute gagner la Ligue des Champions pour que ça ait un écho auprès de l'ensemble de la population française.
Avant de parler de Manchester City, avant donc de jouer cette demi-finale, question posée aux Français, est-ce que vous estimez que le PSG, cette saison, peut remporter la compétition?
Ils sont 64% des amateurs de football le pensent, et c'est surtout le plus haut niveau qu'on a jamais mesuré. Vous savez, on pose régulièrement cette question avec vous, et on n'a jamais mesuré un tel niveau. Le plus haut qu'on avait mesuré précédemment, c'était 56%. Donc les amateurs de football sont confiants pour le PSG. Il va falloir éliminer City pour aller jusqu'en finale, mais il y a une certaine confiance, un certain optimisme.
City, on y vient dans un instant. Je passe à la question concernant le président du Paris Saint-Germain. À la fin de la rencontre, messieurs, Nasser El Khelaïfi a déclaré en substance: Mbappé et Neymar n'ont plus d'excuses pour partir. Est-ce que les Français, les amateurs de foot, sont d'accord avec le président du Paris Saint-Germain?
Oui, il a pas traîné, puisque ça a été dans la foulée du match. Et effectivement, les amateurs de football, 69% le pensent, et même les Français à 55%. Finalement, on peut se dire que le PSG, en se qualifiant deux fois de suite pour une demi-finale, fait partie désormais du Gotha, et donc Nasser a raison selon les amateurs de football. Surtout que cette saison, faut bien le rappeler, le PSG a eu des difficultés avec son équipe puisque il a rarement joué avec son équipe type. Donc on peut se dire que avec l'équipe type, ce PSG-là est capable d'aller en demi-finale tous les ans.
Ça, c'est une question qui devrait vous faire réagir. La quatrième et dernière question, demi-finale, le Paris Saint-Germain éliminera-t-il Manchester City? Alors
c'est majoritaire, 56%, mais c'est partagé, on pourrait dire ça. Donc il y a une certaine confiance chez les amateurs de football, mais ils sont pas certains d'éliminer le Grand City, qui est quand même une grosse équipe. Donc ça va être un vrai match. Si on remonte le parcours, éliminer le Barça, le Bayern et City, ça serait quand même exceptionnel et encore plus fort que ce que le PSG a fait l'année dernière en se qualifiant en finale.
Donc 56%, on va dire que, grosso modo, c'est du 50-50. La France est partagée. Merci beaucoup, Émile Leclerc.
Merci.
Directeur des études pour Odoxa, et d'autres informations sur ce baromètre, sur ce sondage, demain matin dans la matinale de RTL de Stéphane Carpentier, à 9h notamment. Messieurs, ici en studio, le PSG est qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Doit-il avoir peur de Manchester City? Est-ce que vous êtes aussi confiance relative, c'est comme celle des Français.
C'est normal. C'est normal, Christian. On est face à une équipe dirigée par Pep Guardiola, on est face à l'actuel leader du championnat anglais qui selon toute vraisemblance, va décrocher le titre. Donc c'est normal qu'il y ait une forme de prudence. Mais il y a de la confiance parce que vous avez éliminé deux mythes du football européen, deux grosses équipes. Alors en tout cas une très grosse équipe, le tenant du titre, peut-être le meilleur club du monde à l'heure actuelle. Barcelone, il y a une odeur de fin de cycle, mais il y a quand même le meilleur joueur du monde dedans. Messi, donc vous sortez d'un parcours incroyable.
Mais je trouve qu'on a tendance quand même à minimiser certains parcours du Paris Saint-Germain cette année en Ligue des Champions.
Baptiste Després,
ils éliminent Barcelone, on va me dire oui, mais Messi, fin de cycle, etc. Ils éliminent le Bayern, oui, il n'y a pas Lewandowski et compagnie. Enfin, Barcelone, ils ne jouent pas avec Neymar, Neymar est absent. Là, il n'y a pas Verratti, il n'y a pas Marquinhos. Je trouve qu'il y a tendance quand même un petit peu à minimiser ce parcours qui est aujourd'hui exceptionnel. Barcelone et Bayern Munich, c'est pas rien. Et pour répondre à votre question sur le PSG, doit-il avoir peur ? Non, peur non, mais les respecter et mettre en place les mêmes ingrédients qu'on a vu contre Barcelone et contre le Bayern Munich. Et il n'y a pas de raison, effectivement, que ça ne puisse pas passer.
Florian Gazan ?
Il y a juste un danger, c'est de se dire que le plus dur est fait. Parce que le Bayern, c'était quand même l'Everest, et de se dire, bon, City, c'est un cran en dessous, même si c'est très fort. Et voilà, et de se relâcher inconsciemment. Mais quand tu arrives, de toute façon, à 3 matchs de la victoire finale, bon, bah, il faut jouer ses chances à fond. Et moi, je pense, pour avoir vu jouer beaucoup le City, c'est une équipe qui est très scolaire, très appliquée, qui joue bien au ballon. Mais Paris, aujourd'hui, avec Neymar et Mbappé au top, peut faire mal à n'importe qui. Et notamment à cette défense de City qui n'est quand même pas non plus.
Alors, l'équipe scolaire est très appliquée, vous en parlerez à Longoria.
Marquinhos doit revenir deux jours avant la demi-finale. Donc, peut-être encore l'attelage Danilo, Kimpembe. Voilà, il y aura encore des souffrances à venir. Hein.
La scolaire est très appliquée, je trouve Florian un peu dur quand même, parce qu'elle récite son football. Mais quel football ! C'est un football quasiment inarrêtable, avec un De Bruyne qui est un prétendant pour moi sérieux au Ballon d'Or, qui reviendra au meilleur joueur de l'équipe qui gagnera la Ligue des Champions très vraisemblablement. Il y a l'Euro derrière. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour moi, vous parliez d'Everest, c'est pour moi l'adversaire le plus dur. Pour moi, franchement, c'est le sommet absolu. C'est Guardiola qui veut enfin cette Ligue des Champions. C'est une équipe qui se balade en championnat d'Angleterre, qui a une possession souvent incroyable, qui en plus a des joueurs décisifs à tous les postes. Franchement, autant pour moi, le Bayern, le PSG était favori. Là, moi, je mettrais City à 51-49.
Bernard, j'espère que Gilles... 51 ?
Ouais, pour City. Je mettrais City un tout petit peu devant.
Juste, j'espère que Gilles pourra dire en finale que l'adversaire le plus dur, c'est le Real Madrid.
Non, je pense que pour moi, c'est là. Voilà, je vous le dis, pour moi, c'est là. C'est City.
Bernard, non, on n'a pas la perception en France, quand même, que le Paris Saint-Germain, c'est devenu une grande Europe.
Oui.
C'est devenu une très grande Europe. Quand Michel Platini, l'autre jour, disait, mais Mbappé, il doit faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain, parce que un des deux, trois clubs les plus puissants au monde aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain. Il a raison, Michel Platini. Enfin, il a toujours raison, de toute façon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le PSG, pour moi, est supérieur à Manchester City, ne serait-ce que par ses individualités. Il y a très peu d'équipes au monde qui peuvent aligner à la fois Eddy Maria et Mbappé et Neymar. Alors, ok, t'as De Bruyne qui est un joueur formidable.
De Bruyne qui vient de sortir, on joue la Coupe
demi-finale, la Coupe contre Chelsea.
Manchester City. 0-0 et De Bruyne a quitté la pelouse blessé.
Ah, alors là, c'est voilà.
Ouais, bah, on a le temps.
Oui, mais alors est-ce que c'est de la précaution ? Parce que Guardiola.
Comme Navas qui ne jouera pas demain d'ailleurs contre Saint-Etienne.
Voilà.
L'épaule. Est-ce que c'est de la précaution ou une blessure musculaire sérieuse ? Parce que les joueurs de City sont fatigués, ils sont en cours dans 4 compétitions et commencent à être usés.
Ou Navas a peut-être peur de caserie.
Ah oui.
Oh, c'est pas beau ça. De Bruyne touchait la cheville.
Ouais, bon, ça va.
Et Navas, précaution musculaire ?
Oui, il a mal à l'épaule. Ça serait une demi-finale de Ligue des Champions demain, il jouerait.
Vous avez vu jouer notamment on va dire la première demi-heure de City face à Dortmund ?
Oui, oui.
Bah, ils ont été bousculés.
Ah, si City joue comme cela face au Paris Saint-Germain, PSG se balade.
Mais on l'a tous dit autour de la table, quand vous avez deux. Honnêtement, on parle de deux extraterrestres aujourd'hui. De Neymar et Mbappé, ce sont deux extraterrestres. On était au Parc des Princes avec Dominique là, mercredi. J'ai un doute. Voilà, mardi, ça passe trop vite. Et honnêtement, quand on voit la façon dont les joueurs du Bayern ont défendu sur Mbappé, après ce qu'il leur avait fait au match aller, il y avait quoi ? Il y avait au moins deux, voire trois joueurs du Bayern qui jouaient sur Mbappé. Là, vous vous dites, mais Mbappé, il va faire ses dribbles, il va s'en faire. Non, il a une intelligence de jeu, il a une maturité aujourd'hui qui est complètement différente. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné le ballon à Neymar. Et après, Neymar, c'est la magie. Donc aujourd'hui, ces deux joueurs-là peuvent vous faire gagner avec des champions.
Jamie Carragher, ça vous dit quelque chose ?
Oui. Oui.
Malheureusement, oui.
Défenseur mythique de Liverpool.
Rugueux. Hein. Pas la Ligue 1,
mais mythique également.
Mythique et rugueux. Ouais.
38 sélections. Je n'aime pas voir Neymar au Paris Saint-Germain. Je ne pense pas que des joueurs de la qualité de Neymar ou de Mbappé doivent jouer pour le Paris Saint-Germain. Le championnat français est médiocre, etc., etc.
Il a dû toucher un petit billet d'un club anglais en leur disant.
Je suis pas sûr qu'il
ait été pour qu'il parte.
Peut-être de Liverpool.
C'est dur d'être consultant et où il faut surenchérir
en permanence.
En permanence pour vous distinguer, quoi. C'est un manque de respect vis-à-vis de Neymar et Mbappé. C'est un manque de respect vis-à-vis de la Ligue 1 qui ne le regarde pas. Ou alors j'aimerais qu'il regarde Brest-Metz et qu'il nous en parle. Parce que là, après, je pourrais donner du crédit à ce qu'il dit. Mais
je me fais l'avocat du diable. Quand c'est un journaliste qui dit ça, ou un observateur, mais pas un consultant, ou en tout cas un ancien international, on dit qu'il n'y connaît rien au football et qu'il devrait réviser ses classiques, c'est quand même un joueur.
On peut mépriser la Ligue 1 et Mbappé et Neymar. Ils ont éliminé Barcelone et Bayern sur 4 matchs.
Oui, mais justement, ça fait des années qu'on nous rabâche que la Ligue 1 est tellement faible que c'est un frein pour le PSG, pour ses ambitions européennes. Ça fait deux années de suite qu'ils sont en demi-finale. Donc, comme quoi, finalement, c'est pas si nul que ça, championnat.
Donc, une fois, en stoppant complètement la Ligue 1.
Comme l'a dit Dominique, c'est un effet de style, parce que je suis sûr que Gallagher, il n'a pas le temps, il n'a pas l'envie de regarder la Ligue 1, il sait absolument pas le niveau de la Ligue 1, et il a enfilé des perles pour faire plaisir à ses amis en première ligue.
C'est l'année ou jamais pour le Paris Saint-Germain, donc, messieurs.
Ah, c'est l'année. Alors, franchement, oui. Si c'est pas cette année,
ce sera l'année prochaine.
Bah là, non,
plus l'année prochaine. Il faut profiter
pour Mbappé. Voilà, Mbappé, il va pas rester, il restera au maximum un an de plus, et encore, mais il sera plus là bientôt. Donc c'est l'année. Cette équipe-là doit aller au firmament là, ou alors elle ira pas.
Et il y a un côté parcours quand même des revanchards, éliminer Barcelone, éliminer le Bayern, éliminer Manchester City.
Ouais, mais ça, la revanche.
Honnêtement, la revanche contre le Bayern, je pense qu'ils y pensent. Hein. Mbappé, il repense encore à son action du mois d'août. Contre Barcelone, ils y pensent aussi. Si, je pense que ça joue. Ça fait pas tout. Non, ouais, mais je pense que ça joue.
Au plus haut niveau comme ça, est-ce que c'est source de motivation,
non, pas que ça, mais ça fait partie du paquet.
La finale du 23 août était dans les têtes, oui. Était encore dans les têtes.
Sur City, il y a plus grand monde du PSG qui avait perdu contre. Donc je sais pas si ça jouera. Par contre, il y aura Genesio pour nous indiquer quelques tuyaux.
Pep Genesio,
l'homme qui a battu Guardiola.
L'autre demi-finale opposera Chelsea au Real Madrid. Ouais.
Il y a quand même deux entraîneurs du PSG en demi-finale. Hein. La saison a commencé avec Tourelle, vous savez.
Ouais.
Elle finit avec Mauricio Pochettino. Ouais. Il y a quand même deux entraîneurs du PSG.
Alors je voyais pas cette autre demi-finale par ce prisme. Moi, je pensais à la Formule 1 et au karting. Mais oui, ce sont les retrouvailles.
C'est la première fois qu'ils s'affrontent en club.
Karim Benzema, Olivier Giroud,
c'est
les amis.
La première fois qu'ils s'affrontent en club.
Je suis pas sûr qu'ils vont se croiser beaucoup, mais.
Il y a une question sur la pelouse. Vous allez voir, ce sera pas une très très grosse accolade.
Mais est-ce que c'est quelque chose. Voilà, il n'y a même plus d'accolade d'ailleurs. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous excite, ça, les retrouvailles?
Ils ne sont pas dans le même monde, Christian. On ne va pas faire un jure à Karim Benzema.
Giroud est meilleur?
C'est un des meilleurs attaquants français de l'histoire. Olivier Giroud, c'est Olivier Giroud.
Il est champion du monde, non?
Oui, champion du monde, et puis il a mis des buts qu'il a mis aussi parce que Karim Benzema n'est plus appelé depuis 2016. Tout le monde le sait.
Si Olivier Giroud, c'est pas la faute de Giroud. Hein.
Non, mais s'il est honnête, il sait très bien qu'il est dans les 34, mais il en a 30. Je sais plus combien de buts il a mis en équipe de France, mais beaucoup.
Il en a tellement mis qu'il n'arrive plus à les compter.
Ouais. Voilà. Et ben, il sait qu'il en doit quelques-uns au fait qu'il a joué, alors que normalement, Karim Benzema aurait dû jouer ses matchs s'il avait été appelé par Didier Deschamps. Ouais, mais c'est pas le même monde. C'est un bon attaquant qui vient du national, qui a un mental incroyable, qui est fantastique, champion de France avec Montpellier. Puis l'autre, c'est un génie, c'est autre chose.
Alors, c'est peut-être pas le même monde, mais dans l'esprit de Benzema, il y a cette blessure de l'équipe de France. Donc, éliminer Giroud, protagoniste de l'équipe de France, puis éventuellement après aller en finale et battre peut-être le PSG, ça lui plairait. Benzema, là, il est focalisé sur je vais montrer que je suis plus fort que Giroud, je vais montrer peut-être que je suis plus fort que le PSG. C'est son année de revanche possible à lui, et d'aller au firmament et d'ouvrir un débat avant l'Euro. C'est ce qu'il voudrait à titre personnel, ouvrir le débat.
Il peut finir Ballon d'Or avec cette histoire.
Vous n'allez pas me resservir Benzema en équipe de France.
Je dis que le débat, non, je dis pas qu'il y ait un débat sur le fait qu'il y aille raisonnablement ou pas. Mais dans son esprit, il voudrait que l'on dise, mais Benzema champion d'Europe avec le Real, comment peut-on s'en passer?
Plus, voilà. Deschamps aura donné sa liste avant la finale avec
les champions. Oui, mais c'est dans son esprit,
on verra ce que tu fais en finale, si jamais il va en finale avec le Real.
Ce sera d'autant plus humiliant que ce sera une liste de 25 ou 26 joueurs. Donc
Peut-être même plus.
Non, mais c'est du très joli storytelling, Gilles. Je pense que Benzema, il pense tout simplement à remporter une 5e Ligue des Champions et égaler le record de Cristiano Ronaldo et Di Stefano. Ça suffira pour son bonheur, je pense.
Benzema qui est sur le point de re-signer.
Oui,
tout le alors, ça fera combien de saisons au Real Madrid?
10 ou 11 déjà, là.
Ah oui, facile. Alors, je vais en rajouter deux.
Ça fait pas ce qu'on
a. Il fait sa 12e saison, là.
12e
Karim.
12e, donc s'il re-signe pour deux ans, ça fait 12 et 2, ça fait 14. Hein, 14 ouais. Dans la forme de sa vie, Benzema. Donc, et, tiens, au fait, me vient, comme c'est une question sans doute un peu absurde, mais imaginez Benzema dire, bon, je suis peut-être à un moment donné, moi ou mon entourage, mal conseillé, je résume, hein, parti un peu en vrille, allez, je présente mes excuses à Deschamps, on oublie tout.
Ça ne suffirait pas.
C'est trop tard, Christian. C'est
pour
trop
qu'il
tard.
Retourne, ça suffirait pas.
Pour qu'il retourne en équipe de France.
Il aurait fallu des matchs. À ce moment-là de l'histoire, c'est impossible. Il ne restait que des matchs amicaux pour préparer l'Euro. Il aurait dit ça il y a un an, il y a deux ans, pourquoi pas. Mais là.
Et ça aurait été la plus grande erreur de sa carrière, ça.
Non, mais le truc le plus important pour lui, c'est sans doute qu'on soit éliminé au premier tour, que Deschamps saute, que Zidane arrive, et là, il joue en bleu.
Avant la date fatidique.
Ouais. Et puis, ça poserait un problème sans doute de vestiaire également.
Oui, aussi, oui.
Le retour de Benzema. Ouais. Bon, ah bah c'est oui. Pas d'actualité.
Il prend de la place.
Okay. Oui. La Ligue 1, donc Marseille a battu Lorient 3-2. Rennes est allé gagner sur la plus jusqu'au
Angers.
Pourquoi je dis Lorient? Enfin bref, vous m'avez compris, 3-0. Ouais. Alors, Lille, ça va être dur, hein, parce que le PSG gagnant contre l'AS Saint-Etienne demain, le PSG revient à un point.
Et Lyon-Lille la semaine prochaine.
Paris n'a pas gagné depuis deux mois au Parc des Princes.
Paris a perdu trois matchs de suite en championnat à domicile.
Bon, là, c'est, avec ce que tout nous a dit Lille. Bernard Lyon, l'AS Saint-Etienne n'est quand même pas au mieux de...
Ça va mieux.
Si, tous les efforts ils sont retrouvés au pied du mur, les Stéphanois, que ce soit avant le match à Nice, à Angers, ils sont allés l'emporter.
Bon, Lille, je vous donne le programme. Hein. Lille va aller jouer à Lyon contre Nice, à Lens contre Saint-Etienne et à Angers. C'est dur hein, pour les Lillois.
Surtout que Lille, ça ne va plus du tout. Quoi. Ils avaient une solidité défensive qui a failli tomber à Metz la semaine dernière et Maignan a arrêté un pénalty. Hier soir, c'est Delors sur un très bon travail de Laborde notamment.
Ça va plus du tout sur le plan du jeu ou dans l'état. Vous vous souvenez, je ne sais pas qui était là samedi dernier, mais on en parlait avec Powell notamment. Il y a quand même aussi quelques petits problèmes extra-sportifs, hein, de contrat, de reconduction de contrat, de salaire payé, de primes pas versées, etc. etc.
Ça joue.
Paris, ça paraît être le plus abordable, mais c'est un programme chargé. Hein. Le PSG va donc jouer contre Saint-Etienne, à Metz, contre Lens, à Rennes, contre Reims. Et à Brest.
Et avec ça, vous avez...
Avec la Ligue des Champions.
Et la Coupe de France.
Et la Coupe de France.
La Ligue des Champions qui est en toutes les têtes. Donc on voit bien que Pochettino, il préserve ses joueurs en championnat. Il fera tourner en Coupe pour qu'il soit apte lors de la Ligue des Champions. Donc c'est l'obsession Ligue des Champions.
Mais moi, je ne suis pas sûr que les Sarabia et tout ça.
Bernard Lyon,
je ne suis pas si inquiet que ça pour lui. Parce que déjà, ils ne vont pas gagner leurs 15 derniers matchs de la saison. Ça arrive jamais. Qu'ils ont égalisé quand même hier soir, ça veut dire que mentalement ils ont eu les ressources parce qu'ils ont eu un festival de ratés en première période.
Ils sont quand même
revenus au score, ouais. Ça prouve qu'ils ont pas lâché l'affaire et qu'ils restent maîtres de leur destin. C'est la seule équipe en France qui est maître de son destin. S'ils gagnent les 6 derniers matchs, ils sont champions de France.
Oui, mais enfin, je vous rappelle le programme. Enfin, non, je vous l'ai donné, je vous le rappelle pas, on n'a pas le temps. Monaco, ça va voyager. Hein. Monaco à Bordeaux, à Angers, contre Lyon, à Reims,
il y a Lens aussi,
contre Rennes et à Lens, dernière journée. Ouais. Ça voyage à Monaco. Hein.
À Monaco, c'est bien quand même.
Et Lyon? Ah ben non, c'est bien, je vous dis non, je vous dis que ça voyage beaucoup.
Il y a une vraie dynamique quand même. Je pense que c'est vraiment le club qui va embêter tout le monde de Monaco.
Et puis Lyon, ça me paraît difficile également quand même. Hein. Bon, à Nantes, contre Lille, à domicile. Hein. À Monaco, contre Lorient, à Nîmes et contre Nice. C'est corsé, hein? Pas évident pour lui.
Ça peut être le...
Ça va jouer dimanche prochain pour eux. Dimanche prochain, ce Lyon-Lille, il vaut très 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 cher pour l'OL.
Allez, on tourne une dernière page... une avant-dernière page de publicité et les tirs au but. Il les attend avec beaucoup d'impatience.
Expliquer à Bernard, hein, c'est une épreuve où les faibles ne se relèvent pas. Donc préparez-vous. Il y a beaucoup d'éliminations ici en cours d'émission.
Des questions d'actualité. Ouais. Je dois vous avouer que des questions d'actualité, j'ai eu du mal à en trouver cette semaine. On a trouvé quand même 2-3. Et surtout, il faut attendre le coup de sifflet.
Oui.
Sinon, c'est...
C'est retiré.
Quelle heure est-il?
Il est très fort.
La pub.
Il a l'air très serein.
Et les tirs.
M'en fiche en loge.
RTL.
On refait le match. On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Les 7 dernières minutes d'On fait le match. Et ensuite, vous retrouverez Philippe Sanfourche, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi et Quentin Vasselin pour un RTL Foot qui vous emmènera jusqu'à 23h. Les tirs au but. Ah. Les tirs au but avec la traditionnelle question Ligue 2 également. On a un spécialiste Ligue 2, mais là, il n'est pas là. C'est Sébastien Tarago. Mais j'essaie d'intéresser tout le monde à la Ligue 2. Je pose toutes les questions économiques, sportives, techniques, coulisses.
Ah, il répond à tout,
à chaque fois. Ah, Sébastien, un
non, il a aussi
incroyable
malgré tout. Mais enfin,
ah,
c'est meilleur que le Voilà. Alors donc la fameuse question Ligue 2 pour vous intéresser à la Ligue 2, en vous rappelant que cet après-midi, 3 a battu Caen par 1-0 et que Clermont et Le Havre ont fait match nul 1-1. Et j'essaie de donner donc un maximum d'informations. Raison pour laquelle dans la question, j'ai préparé ma petite fiche. Écoutez bien. Attendez le coup de sifflet de l'arbitre. Premier tir au but. Dans le championnat italien, un joueur français est devenu, il y a quelques jours, le deuxième milieu de terrain français à marquer plus de 10 buts, 11 buts d'ailleurs, 5 pénaltys lors d'une saison déjà en cours. Il rejoint un certain Michel Platini. Il a débuté sa carrière en Ligue 2. Quel est ce joueur? Quel est ce club?
Nantes Verretto.
Oui. Formidable.
Ah ouais. Formidable. On leur a invité.
Bon, ouais, voilà.
Ouais. On comprend pourquoi il est invité.
Ah ouais.
Formidable.
Il y a du niveau. Il y a du niveau.
Oui, Jordan Veretout.
Je suis beaucoup Jordan Veretout parce que je trouve que c'est un joueur sous-coté en France et d'un talent incroyable. J'ai eu le plaisir de le voir jouer pendant un an à Saint-Etienne. C'est un joueur formidable.
Et tu n'as pas eu le plaisir de l'interviewer?
Si, mais oui, pas mais récemment.
Il y a très longtemps.
Oui, il y a très longtemps.
Interview exclusive ce soir dans RTL Foot.
Ah, vous verrez, en plus, il est très intéressant.
Mais bien
très
sûr.
Intéressant, Jordan.
Jordan Veretout dans RTL Foot.
On donc, en bravo, parle en équipe de France.
C'est beau ça.
Super bravo, joueur. Bravo.
Vous aviez trouvé aussi tous.
Bien sûr. Neymar, Mbappé, on ne peut pas s'en passer. Vont-ils se marcher dessus pour obtenir le ballon d'or?
Bien sûr. Et ça, c'était un gros problème parce que je me demandais si Neymar serait collectif étant donné qu'il est obsédé par ça. Mais je vais vous faire une révélation, Neymar n'y croit plus. Neymar a abandonné l'idée du ballon d'or, donc ce sera Mbappé.
Non, parce que le ballon d'or moral, c'est Lewandowski, donc c'est lui qui l'aura.
Ah, mais ça n'existe pas, ballon d'or moral. Quand on se blesse au moment où il ne faut pas se blesser, on est pladine d'être ballon d'or.
Lewandowski, ballon d'or.
Il aurait dû être ballon d'or.
L'année dernière, vous avez enterré Lewandowski parce qu'il a raté son... Non, mais d'accord, on parle de cette année, cette saison. Il va pas finir de vous surprendre. Surtout, on l'a pas amputé d'un pied quand même, Gilbert. Momentanément blessé, c'est un buteur extraordinaire.
Il y a quand même plus de chances que la France aille loin à l'Euro qu'à Pologne, non?
Normalement.
Plus de
chances. On en rediscutera.
Bon, ça c'est pour revenir. C'est pour revenir.
Oui, oui.
D'accord. Troisième tir au but. Longue interview de Patrick Vieira hier dans le journal L'Équipe, l'ex-entraîneur niçois. Doit-on douter de Patrick Vieira en tant que grand entraîneur que lui-même déclare vouloir devenir? Oui ou non? Vieira, grand entraîneur, Gilles Verdez.
Oui, on doit en douter.
Ah,
on doit en douter. Non, mais franchement, on doit en douter. Moi, j'ai jamais été convaincu de sa manière de transmettre. Je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à transmettre. Quand il était joueur, je le trouvais assez renfermé. Je trouve qu'il ne s'est pas ouvert vers les autres. C'est mon jugement personnel que beaucoup ne doivent pas partager.
Vous êtes d'accord là-dessus, messieurs? Sur ces deux saisons à Nice, ça s'est plutôt...
Moyennement passé.
Oui, mais sportivement,
c'était quand même correct. Oui. Après, il est sorti parce que mauvais résultat. Il y a eu quand même pas mal de cas de Covid à Nice et c'était compliqué. Mais je suis d'accord avec Gilles sur le côté où, en fait, son futur point de chute va être ultra déterminant. On va voir quel, finalement, visage il veut donner à sa carrière. Est-ce qu'il va pouvoir se relancer en France? Est-ce que ça va être dans un autre championnat? Mais aujourd'hui, on n'attend pas Patrick Vieira.
C'est pas au bout de 2-3 ans au très haut niveau qu'on peut avoir un avis. Quoi. Tout le monde n'est pas Laurent Blanc qui a commencé à Bordeaux, qui a fait 6...
Mais certains sont Thierry Henry.
Qui a fait 6 premiers et deuxièmes. Tout le monde n'est pas un prodige du banc. Il faut attendre un petit peu. Il fait partie des champions du monde qui essayent d'entraîner. Il y a deux qui ont pris de l'avance, c'est Blanc et Deschamps. On verra où se situe Patrick Vieira. Ça peut finir comme Alain Bogossian ou ça peut finir comme Didier Deschamps, on verra.
Un dernier tir au but. Le président des Girondins de Bordeaux, M. Longuepée, porte plainte après un affichage hostile appelant à, je cite, sa capture. Une affiche, vous savez, qui s'inspire des Wanted à l'époque du Far West et des Westerns. Mais franchement, quelles que soient les responsabilités des dirigeants en la circonstance, on doit forcément s'insurger et dénoncer ce type de comportement. Messieurs, j'attends de vous un coup de gueule. Personne.
Bien sûr,
oui,
si.
Parce qu'ils ont personnalisé le débat, les ultras. Ils ont fait de Longuepée le symbole de la faillite des Girondins de Bordeaux, alors qu'on sait que ce n'est pas que Longuepée. Maintenant, Longuepée, il a pris Alain Roche pour s'en servir d'un paravent. notamment en termes de communication, en termes d'image. Et là, on voit que ça a ses limites.
On n'affiche pas quelqu'un comme ça. On n'affiche pas, on capture pas quelqu'un. On l'affiche pas publiquement. On ne livre pas quelqu'un à la vindicte. C'est impossible. Franchement, soutien total, même si j'ai aucune affinité, mais soutien total.
On peut dénoncer la politique sportive du club, le manque de communication des dirigeants, le côté cassant peut-être aussi, sûrement, des dirigeants vis-à-vis des supporters. Mais non,
mais on sait combien ils sont à avoir fait ça, Christian. C'est un acteur isolé, c'est une bonne organisation.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la caisse de résonance des réseaux sociaux, on s'imagine qu'ils sont 3000. Ça se trouve, c'est deux
Facebook qui ont fait ça dans son coin.
Mais j'ai pas envie de lui donner la limite. Et on en saura
plus. J'ai pas envie de lui donner du crédit à ce moment-là.
Baptiste Durieux est-il là pour quelques messages? Il est parti, Baptiste Durieux. Il nous prépare. Non, il nous prépare la chronique de demain.
Ah, bah bien sûr.
Les délires de fait de
match. Ah, moi j'attends ça. Je me lève pour.
Qu'est-ce qu'il bosse?
Merci beaucoup, monsieur.
Merci
à Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire. Merci à Baptiste Després du Figaro. Merci à Gilles Verdez, le procureur. Merci à Florian Gazan de RTL. Et merci.
Il faut l'applaudir. Moi, j'ai envie de l'applaudir.
Non. Merci à vous. Pour son excellent bouquin. On a fait une belle promo quand même.
Magnifique.
Journaliste à l'équipe, merci. RTL Foot, 20h-23h. Sanfourche, Domer, Castaldi, Vasselin. Restez avec nous après la pub, les informations. Très bonne soirée, très bonne nuit à l'écoute de RTL. Ciao.